Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, excellent réveil à tous. C'est lundi, c'est parti et on est ensemble jusqu'à 9h. 404 votes contre et 1 vote pour. La partie recette du budget a été rejetée ce week-end à la quasi-unanimité des députés. Alors maintenant, on fait quoi? 49-3, vote par ordonnance, vous n'y comprenez rien. Nous non plus, et eux non plus. Mais pas de panique, dans 10 minutes, le constitutionnaliste Benjamin Morel sera avec nous dans ce studio. La France peut-elle se retrouver sans budget? Il va tout nous expliquer donc à 7h10. Et puis à 8h30, l'invité du face-à-face, ce sera le patron de la France Insoumise, Manuel Bompard. Les Insoumis qui prévoient une nouvelle motion de censure. Faut-il retourner aux urnes? C'est ce que demande Marine Le Pen. Je lui poserai aussi la question donc à Manuel Bompard, ce sera à 8h30. Tout ça vous fait réagir? Est-ce que nos élus sont irresponsables? Je vous attends sur ce sujet comme sur tous les autres. Vos témoignages, vos alertes, vos réactions, c'est au 3216 au téléphone et c'est sur le WhatsApp d'RMC 0612 424 424. Entendre la France à travers vous, appelez-nous. Et puis attention, c'est le dernier jour pour tenter de remporter les 120 000 euros. C'est énorme, 120 000 euros net d'impôts. RMC vous fait gagner cette somme record. C'est aujourd'hui. Vous allez donc entendre une alerte d'ici 9h. Ce sera la dernière. Donc restez bien à l'écoute pour pouvoir réagir dès que ça sonne. Apolline Matin, c'est parti. Dans un instant, le journal de 7h. Il est 6h59. Et c'est encore une assez mauvaise journée, on peut le dire, Géraldine.
Peut dire, oui. Alors c'est plus doux, c'est la bonne nouvelle, mais ça va être très pluvieux, particulièrement sur le sud-ouest avec la Gironde, la Dordogne et la Corrèze qui sont en vigilance orange. Donc pour ces fortes pluies, à risque d'inondation, il va beaucoup pleuvoir de l'Aquitaine jusqu'aux frontières de l'Est avec de fortes chutes de neige en montagne. Sur le nord-ouest, on peut avoir des éclaircies, mais il y aura aussi de bonnes averses, parfois orageuses, parfois sous forme de grésil et avec beaucoup de vent. Mais effectivement, les températures sont bien remontées. Il fait doux ce matin, température plutôt de saison cet après-midi. Après-midi avec 8 à Lille, 10 à Paris, 11 à Lyon, 14 à Bordeaux, 16 à Marseille, 17 pour Perpignan et Ajaccio.
La météo sur RMC avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Omiris, un service opéré par EPS Agréé CNAPS.
Excellente journée à tous à l'écoute d'RMC, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Une permission de sortie qui pose question accordée ce lundi à l'un des 100 détenus les plus dangereux de France pour un entretien d'embauche sans escorte à plus de 600 km de la prison où il est incarcéré. Boualem Sansal va bien, c'est lui qui le dit dans sa première prise de parole depuis sa libération. Il plaide pour une réconciliation entre la France et l'Algérie. Et l'optimisme des États-Unis ce matin au lendemain de pourparlers sur l'Ukraine avec sur la table un nouveau plan de paix validé par Kiev.
Un baron de la drogue dehors ce matin.
Libre, malgré son statut, il fait partie des 100 plus gros narcotrafiquants du pays, incarcéré à la prison de Vendin-le-Vieil. Et il est autorisé à sortir. Une permission accordée dans le cadre de son droit à la réinsertion. Il doit passer un entretien d'embauche à Lyon ce lundi. Et ce qui surprend Julie Brault, c'est que cet homme va pouvoir se rendre à plus de 600 km de son établissement pénitentiaire sans aucune escorte.
Oui, car la loi en matière d'aménagement des peines est ainsi faite. Selon nos informations, c'est la femme de ce détenu de 52 ans qui viendra le chercher ce matin devant la prison de Vendin-le-Vieil pour l'emmener en région lyonnaise où il doit rencontrer un potentiel employeur. L'ancien dealer, incarcéré depuis 2012 pour narcotrafic, ne sera escorté par aucun policier. Il devra ensuite regagner de lui-même sa cellule ce soir en respectant un horaire défini. Une permission de sortir légale mais qui interroge au regard du profil de ce détenu qui s'était notamment évadé de prison en 2014 à l'aide d'un commando armé. Des antécédents qui, je cite, exigent une vigilance toute particulière, a assuré hier Gérald Darmanin, avant de pointer la nécessité de réviser la loi pour créer des règles spécifiques pour les narcotrafiquants.
Alors je ne sais pas si vous, ça vous fait réagir, mais moi j'avoue que depuis hier soir, je suis en toupie sur cette histoire que je trouve proprement hallucinante, le contraste entre la prison d'ultra haute sécurité d'un côté et cette liberté totale pendant une journée sans escorte pour traverser la France. N'hésitez pas à nous appeler pour réagir au 3216 et ne manquez pas à 7h40, la porte-parole de l'administration pénitentiaire qui sera donc mon invité sur RMC.
Les premiers mots de Boualem Sansal depuis sa libération il y a près de 2 semaines, invité de France 2 hier soir. L'écrivain franco-algérien de 81 ans est revenu sur les conditions de son année de détention en Algérie, condamné pour ses prises de position, hypothèse Thomas Becker, remise en question par l'écrivain.
Oui, les cheveux blancs coupés, la voix calme, l'écrivain de 80 ans a commencé par donner des nouvelles de sa santé.
Je vais bien, j'ai diagnostiqué un cancer de la prostate, j'ai été traité pour ça, par des professeurs et des médecins consciencieux, sérieux.
Devenu le symbole de la crise diplomatique entre Paris et Alger, il le dit lui-même, chacun de ses mots est contrôlé, ce qui ne l'empêche pas de raconter aux Français sa vie dans les geôles du régime algérien.
La vie est dure dans une prison, le temps est long. On se fatigue, on s'épuise très vite, on se sent mourir.
Une captivité qui a débuté en novembre 2024 à l'aéroport d'Alger avec un trajet en voiture forcé de porter une cagoule. Un an plus tard, il en est certain, sa détention était liée aux prises de position de la France.
C'était que depuis quelques mois, entre la France et l'Algérie, une guerre a été déclarée suite aux déclarations de Macron, président Macron, qui reconnaissait formellement la baroquinité du Sahara. C'est de là... Tout a commencé là.
Désormais libre, il compte bien retourner dans son pays natal.
Le plus tôt possible, pour quelques jours au moins récupérer mes affaires.
Et notamment son ordinateur, toujours entre les mains de la justice algérienne.
Retour à la case départ pour le budget de l'État après son rejet à l'Assemblée nationale samedi. C'est la copie du gouvernement qui va donc débarquer au Sénat ce matin 9h30 en commission avant son passage dans l'hémicycle à partir de jeudi.
Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron poursuit sa visite en Afrique.
C'est la dernière journée pour le chef de l'État ce lundi attendu en Angola après le Gabon et l'Afrique du Sud en marge du G20 depuis lequel il a confirmé sa volonté de rétablir le service militaire une semaine après les propos du chef d'État-major aux armées qui déclarait que la France devait accepter de perdre des enfants. Le président de la République va plus loin, il intervient avec ce service nouvelle génération détaillé dans les colonnes de nos confrères à la Tribune dimanche.
Oui, cela fait environ un an que c'est dans les tuyaux, confie un proche connaisseur du dossier, qui confirme l'idée d'un service militaire volontaire pour les jeunes dès 18 ans, et ce, dès l'an prochain. Il serait donc bien question d'un engagement d'une durée de 10 mois, rémunéré à hauteur de plusieurs centaines, voire jusqu'à 1000 euros, avec l'octroi de crédits universitaires. L'objectif, recruter à terme de 10 à 50 000 jeunes par an, qui ne seraient pas envoyés en opération à l'étranger, mais qui pourraient être enrôlés dans des missions de type opération Sentinelle. Pas de confirmation officielle de l'Elysée, mais un proche d'Emmanuel Macron nous dit que sa ligne est claire. Il veut, dit-il, un service national plus adapté à la nouvelle donne géopolitique que l'on vit depuis quelques années. Des annonces sont attendues jeudi, sans doute lors d'un déplacement du président.
Une manière de préparer les esprits dans un monde fait d'incertitudes, dissuader l'autre de venir, dit le chef de l'État, alors même que les États-Unis tentent de mettre un terme à la guerre en Ukraine. Des pourparlers constructifs se sont tenus hier à Genève en Suisse autour de la table des Européens, des Ukrainiens, mais aussi des Américains optimistes ce matin, Romain Houg, sur la possibilité de conclure très vite un accord.
Oui, les États-Unis et l'Ukraine ont travaillé sur la base du projet proposé par Donald Trump la semaine dernière pour aboutir à une version affinée, disent les deux parties, sans pour autant que l'on sache vraiment ce qui se trouve dans cette nouvelle mouture du texte. La version initiale devait contraindre l'Ukraine à céder certains de ses territoires, à réduire massivement la taille de son armée ou encore à renoncer à intégrer l'OTAN, un projet qui avait alors été salué par Vladimir Poutine, mais vivement critiqué par l'Ukraine et ses alliés européens. Cette nouvelle version du plan de paix est-elle désormais plus favorable aux Ukrainiens ? Elle reflète en tout cas la plupart des priorités clés de Kiev, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, et les points qui restent en suspens ne sont pas insurmontables, ajoute de son côté le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui ouvre au passage la voie à une prolongation de l'ultimatum lancé par Donald Trump, qui avait laissé à l'Ukraine jusqu'à la fête de Thanksgiving ce jeudi pour se prononcer sur ce projet de plan de paix.
Les précisions de Romain Houg ce matin. La refonte des rythmes scolaires en question, c'est l'un des objets de la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant qui s'est terminée hier par la remise d'un rapport parmi les 20 recommandations la semaine à 5 jours du lundi au vendredi. Mercredi inclus avec des horaires adaptés au rythme biologique des enfants. On en reparle dans le journal de 7h30. Le sport, Lille qui retrouve le sourire, tombeur du Paris FC hier soir en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Victoire 4 buts à 2 grâce au doublé d'Olivier Giroud, 2 buts pour le champion du monde après une longue disette de 3 mois sans marquer en Ligue 1.
Sur le plan personnel, c'est vrai que les cages se faisaient un peu plus petites ces derniers temps, mais je sais que c'est des cycles. Quand tu es attaquant, j'en ai vécu d'autres. Là, même si j'ai connu une petite période de disette, c'est bien, la confiance est toujours là et ils savent que quoi qu'il arrive, je donnerai le meilleur pour ce club et pour ce maillot.
Et cette victoire, elle permet aux nordistes de grimper à la 4e place du classement. Retenir également le match nul de Lyon sur la pelouse d'Auxerre, 0-0. Et puis en rugby, la belle victoire du Stade français hier soir en clôture de la 10e journée de Top 14. Les Parisiens s'imposent face à Toulon 51-24 et grimpent sur le podium grâce au bonus offensif. Le RCT chute à la quatrième place.
C'était le journal de Thibaut Texer, 7h07. Vous êtes nombreux à réagir à cette proposition de la Convention citoyenne sur les rythmes scolaires. Bonjour Julien.
Bonjour Apolline.
Julien, aide-soignant en Normandie. Parmi les propositions de cette Convention citoyenne, il y a l'idée de lisser la semaine, qu'il se soit une semaine de 5 jours, du lundi au vendredi, tous les jours pareil. Ça vous fait réagir Julien, parce que votre fils est en 6e je crois.
Exactement, mon fils Paul est en 6e et je vois, donc là il a la semaine à 4 jours et demi lui, hein, donc le mercredi okay. Fini aux alentours de midi, mm-hmm. Et il est déjà vraiment épuisé. J'ai de la chance d'avoir un enfant qui n'a pas de problème d'apprentissage, aucun trouble 10, ouais. Il apprend bien, il travaille bien, et je vois déjà que c'est du temps à la maison, c'est de l'organisation, mm-hmm. C'est de l'épuisement, c'est de la tension aussi au sein mm-hmm. des familles. Je me dis, rajouter du temps scolaire, ça va être générer de la fatigue en plus, à moins que vraiment toute l'organisation soit revue, mais c'est vraiment
alors,
pas...
Alors évidemment, bien. L'idée, c'est pas de rajouter, c'est de lisser, c'est-à-dire au fond, de faire en sorte que les journées soient un peu moins longues, mais toutes pareilles. C'est-à-dire, typiquement, ce que vous avez en Allemagne ou aux États-Unis, c'est du 8h30, 15h30, quoi, vous voyez. L'idée, c'est que le jeu... Par exemple, vous faites quoi le mercredi après-midi? Qui s'occupe de votre fils?
Bah, là, moi, j'ai de la chance. Je suis de nuit en ce moment aux urgences. Donc, je suis disponible pour lui. Mais c'est vrai qu'habituellement, c'est toujours un peu. Ça peut être compliqué. Il faut voir avec les grands-mères, avec les grands-pères qui sont aux alentours. Effectivement, ça peut faciliter la vie de tous ceux qui travaillent et qui ont des enfants.
L'épuisement dont vous parlez, il le mentionne aussi. C'est-à-dire, effectivement, il y a des journées terribles. Parfois, ça commence à 8 heures. D'ailleurs, ils encouragent à ce que ça commence un peu plus tard. C'est aussi un peu de notre faute. C'est parce que je pense que les parents ont de plus en plus de mal à coucher les enfants tôt. Ça, je ne sais pas comment vous gérez, vous, Julien, mais c'est vrai que c'est quand même une des difficultés le soir, c'est rentre dans ta chambre, va te coucher, va dormir. Mais Julien, moi, je sais que mon expérience d'avoir été aux États-Unis, mes enfants étaient, je trouve, beaucoup plus apaisés parce que tous les jours, c'était la même chose. Il n'y avait pas ce côté « Attends, aujourd'hui, on sort à quelle heure ?» En fait, c'était tous les jours la même chose. Il y avait une forme de sérénité dans la semaine. Mais je comprends que spontanément, on a plutôt l'impression qu'au contraire, le mercredi après-midi, il se repose. Mais est-ce qu'il se repose vraiment, votre fils, le mercredi après-midi, Julien ?
Bon, il fait beaucoup de sport. Donc, effectivement, c'est pas forcément du repos. Mais en tout cas, au niveau intellectuel, on va dire que là, il n'est pas dans l'apprentissage. Il n'y a pas cette pression scolaire aussi. C'est quand même du bon temps, j'ai envie de vous dire, pour lui. Malgré tout, effectivement, lycée, il y aura quand même le même nombre d'heures sur la semaine. Peut-être une heure est partie, mais il y a aussi le problème du travail à la maison, des devoirs. Vous parliez des États-Unis. Il y a l'exemple de la Finlande, notamment, qui est quand même un pays qui réussit sur pas mal de points, où les enfants n'ont quasiment plus de devoirs. En tout cas, les professeurs les poussent plutôt à se tourner vers la culture.
Très intéressant. Très intéressant cette idée aussi que les devoirs. Nous sommes lundi, je vous avoue que mon après-midi hier, mon mari en a passé l'après-midi à faire les devoirs, c'était épuisant. Merci en tout cas, merci Julien. Merci de votre témoignage ce matin. Très belle journée à Julien. Comme Julien, vous nous appelez au 32-16, 7h10. 7h10, c'est à suivre. À suivre sur RMC, tout ça pour 525 heures de débat et tout est à recommencer. Les députés ont rejeté à la quasi-unanimité la partie recette du budget et maintenant on fait quoi? Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Vous êtes constitutionnaliste, vous alertez dans un instant sur RMC. On va dans le mur, vous nous le dites. Allez, à tout de suite, il est 7h11.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe. 7h14 sur RMC à la radio, sur RMC Story à la télé. Écoutez, c'était vendredi soir à l'Assemblée nationale.
Pour 1 contre 404. L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Ah bah non, c'est le moins qu'on puisse dire. 404 contre un seul député qui a voté pour. La partie recette du budget a donc été rejetée à la quasi-unanimité. Bonjour Benjamin Morel.
Bonjour.
Vous êtes politologue, maître de conférence à l'Université Paris 2. Vous décortiquez depuis toujours la constitution de la Ve République. Comment on peut arriver à un tel désastre? Ça veut dire que 125 heures de débat, pour rien.
Oui, en effet, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand vous rejetez la première partie du budget? La copie qui part au Sénat, c'est la partie originelle, c'est la version originelle, celle qui a été déposée par le gouvernement.
On repart à la case départ.
On repart à la case départ,
c'est le Monopoly.
Les sénateurs vont avoir à examiner le même texte sans aucune modification des députés que celui qui a été soumis aux députés, qui a été déposé par le gouvernement. Donc en effet, ces 125 heures de débat n'auront servi à rien.
Donc là, on repart à zéro. Ça montre d'abord effectivement qu'aucun député ne souhaite ce budget en l'état. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant ?
Bah, ce qui peut se passer maintenant, c'est que les sénateurs, eux, ils vont adopter une version très à droite, une version qui est inadoptable par l'Assemblée nationale. Et donc, qu'est-ce qui va se passer derrière? On va avoir ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. On met 7 députés, 7 sénateurs dans une pièce et on attend qu'ils se mettent d'accord. Si jamais ils ne se mettent pas d'accord, c'est très probable, eh bien, on repart pour une deuxième lecture et on n'aura jamais un budget à temps. Mais on va être tout à fait clair. Il n'y a aucune majorité possible à l'Assemblée nationale qui pourra adopter ce budget.
Donc c'est déjà mort en fait.
Pour que ce budget passe, il y a deux voies. Soit vous avez tous les LR, tous les macronistes, tous les socialistes, sans exception. Il n'y a pas « je suis en circonscription parce qu'il y a la foire à l'ail ». Ils sont tous là et ils votent le budget. Ça n'existe pas. Soit vous avez tous les macronistes, tous les LR qui votent le budget. Je rappelle que là, ils l'ont rejeté. Hein. Mmh. Et vous avez toute la gauche hors LFI, communiste, écologiste, socialiste, qui s'abstient. Ça n'existe pas non plus. Et donc, dans ce cadre-là, on peut se faire tous les scénarios qu'on veut. Il n'y a aujourd'hui pas de majorité pour adopter ce budget.
Dans ce cas, ils continuent à faire comme si. Ils continuent à s'agiter, à aller à l'Assemblée, à faire semblant de faire des petits accords, alors qu'en fait, tout ça est un gigantesque théâtre.
Bah, exactement. C'est-à-dire qu'on est dans une tragédie grecque. Vous savez, dans une tragédie grecque, vous avez le cœur qui dit, dès le départ, que Oedipe va se crever les yeux, épouser sa mère et tuer son père. Et ensuite, le rôle des acteurs, c'est de vous faire oublier ce que vous savez déjà. On est là. C'est-à-dire
qu'on sait déjà que c'est raté.
On sait déjà que c'est raté, mais il faut donner des gages parce que tout le monde est en campagne. Tout le monde essaye de marquer des points symboliques. Et donc, cette campagne-là, in fine, bah, elle ne mène quand même pas à l'adoption d'un budget.
Benjamin Morel, s'il n'y a donc aucun budget voté, ce qui est ce que vous prévoyez dès maintenant, vous, notre cœur de la tragédie grecque, comment sera gouverné le pays ?
Alors, si jamais on n'a pas de budget adopté, la tentation du gouvernement, c'est de voter des lois spéciales. Les lois spéciales, ça autorise le gouvernement, après le 1er janvier, à emprunter sur les marchés et à lever les impôts. Mais c'est forcément temporaire, les lois spéciales. C'est reculer pour mieux sauter. Tout bêtement, parce que vous avez des politiques publiques qui sont engoncées, qui sont fragilisées, et vous pouvez pas avoir de marché public important. Or, derrière, il y a des entreprises qui vivent de ces marchés publics. Donc, pour l'économie, si ça dure quelques semaines, ça va. La dernière fois, ça durait jusqu'en février. Si ça dure plus longtemps, c'est un vrai
désastre. Et donc ensuite, on passe aux ordonnances ?
Ensuite, au bout de 70 jours, on peut, quoi qu'il arrive, passer aux ordonnances. Mais c'est très lourd politiquement, les ordonnances. Parce que tout bêtement, on a voté un budget dans ce pays depuis 1816. Et donc là, on romprait le fait qu'on vote le budget. Et donc derrière, il y a une motion de censure qui guette. Donc l'autre option, c'est de réhabiliter le 49 alinéa 3. Mais cette histoire ne finit que par des ordonnances ou pas un 49 alinéa 3.
Et le 49-3, on le sait bien, Sébastien Lecornu s'était engagé solennellement à y renoncer. S'il ressortait aujourd'hui le 49-3, alors certes, vous le dites, c'est un outil démocratique qui permettrait de faire passer ce budget, mais c'est la crédibilité démocratique qui alors serait écroulée. Parce qu'enfin, un Premier ministre qui dit solennellement « je n'y aurai pas recours » et qui l'utiliserait in fine, plus personne ne croirait, plus personne. C'est fini.
Quoi qu'il arrive, je dirais, cette affaire, elle finit relativement mal.
Elle est perdant-perdant, cette histoire.
Soit vous utilisez le 49-3, qui est quand même bien moins pire que les ordonnances, parce qu'au moins avec le 49-3, vous avez un vote. Vote sur une motion de censure, certes, vote qui avantage le gouvernement, mais vous avez quand même un vote. Soit vous utilisez les ordonnances, mais là, il y a aucun vote pour des résultats qui sont bien pires pour le Parlement. Le problème, encore une fois, c'est que, comme vous l'avez dit, les ordonnances, j'ai moins de mal à les vendre à une opinion qui est remontée comme un coucou contre le 49 alinéa 3. Et donc, si jamais on arrive au 49 alinéa 3, il faudra que ceux qui l'ont enterré le demandent. C'est-à-dire qu'il faudra que ce soit le Parti Socialiste qui demande le 49 alinéa 3. Autant vous dire que la couleuvre va être très, très grande à avaler.
Alors maintenant, dernière option. Si rien de tout ça ne fonctionne, est-ce que la carte de la dissolution est à nouveau possible? Et dans ce cas, quand?
Alors tout de suite, là, maintenant, non, tout bêtement, parce que pour des raisons procédurales, si là on a une dissolution, on peut pas voter des lois spéciales, on peut pas prendre des ordonnances parce que le PLFSS va revenir à l'Assemblée, et on peut pas non plus, voter un budget parce que par définition, on n'aura pas d'Assemblée. Une fois qu'on aura voté des lois spéciales, si on en vote, c'est-à-dire aux alentours du 19 décembre, ensuite on peut imaginer une dissolution. Il n'est pas impossible que le 31 décembre, pour les vœux, on ait le droit à une dissolution. Notez que ça embêterait Marine Le Pen qui sera en plein procès, que ça embêterait le Parti Socialiste et les LR qui seront en pleine campagne municipale. Et à ce moment-là, ça peut éventuellement être une lubie du chef de l'État. Entendons bien toutefois qu'une dissolution ne donne pas nécessairement une majorité, et toujours pas de majorité égale toujours pas de budget.
Vous aurez le temps de revenir, je le sens. Mais vous prévoyez donc effectivement une petite surprise dans les vœux du président. C'est à ce moment-là, en tout cas, s'il y a dissolution, qu'elle pourrait intervenir. Benjamin Morel, politologue, merci à vous de nous avoir expliqué ce qui reste quand même très compliqué. À 7h20, Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, écoutez. Et pourtant, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire et c'est même de la diplomatie, Arthur, parce que le couple de pandas du zoo de Boisval va quitter la France pour la Chine.
Oui, quand la Chine vous envoie un panda, c'est une marque d'amitié. Ça s'appelle la diplomatie du panda et ça dure depuis le 6e siècle.
Et attention donc s'il les rapatrie, comme ça risque d'être le cas. Et puis Arnaud Demange va venir pirater le face-à-face. Mon invité, c'est Emmanuel Bompard. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes exactement sur RMC, 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 et c'est l'heure de remonter le temps comme chaque matin avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Hier, c'était le dernier jour pour voir les deux pandas du zoo de Boisval. Ils repartent pour la Chine demain, comme le veut la tradition.
Oui, la France n'en était pas propriétaire de ces pandas. La Chine nous les avait seulement loués en 2012 dans le cadre de ce qu'on appelle la diplomatie du panda.
C'est quoi cette diplomatie du panda et ça date de quand ?
Alors, c'est très ancien, puisque au 6e siècle, les empereurs chinois offraient déjà des pandas à leurs alliés. C'était une marque de reconnaissance, puisqu'en Chine, le panda, c'est un animal sacré. La pratique va rester et au 20e siècle, ce système s'étend à tous les pays étrangers.
Et ça va être particulièrement utile quand la Chine va devenir communiste.
Oui, quand Mao, le fameux leader communiste, vous donnait un panda, ça voulait dire que vous étiez son copain. Hein. Par exemple, dans les années 1970, les relations entre les États-Unis et la Chine communiste se réchauffent. Qu'est-ce que fait Mao ? Eh bien, hop, il envoie un couple de pandas à la femme du président américain de l'époque, c'était Nixon, et la First Lady les accueille en personne devant toutes les caméras du pays. C'était un événement considérable.
Est-ce qu'on peut refuser d'accueillir un panda ?
Alors vous pouvez, Apolline, mais je ne vous le conseille pas. Hein. Attention, puisque refuser un panda, c'est un outrage que Pékin pardonne très difficilement, mais c'est déjà arrivé en 2005. La Chine offre deux pandas à Taïwan en signe d'apaisement, et là, coup de théâtre, Taïwan refuse. Ça avait été évidemment très mal vécu. Aujourd'hui, personne ne l'a oublié.
Est-ce que la Chine peut reprendre ses pandas ?
Oui, puisqu'en 1984, la Chine a changé ses règles. Les animaux ne sont plus offerts, mais prêtés. Si tout se passe bien, leur prêt est prolongé. Mais si ça se passe mal, en revanche, les animaux rentrent illico presto. Ça s'est produit en 2023, après des désaccords très profonds avec le Royaume-Uni. La Chine rapatrie tous ses pandas de l'île britannique, une punition.
Et la France a elle aussi donc bénéficié de la diplomatie du panda.
Eh bien oui, et la première fois c'était en 1973. Le premier ministre chinois offre un couple de pandas au président Pompidou. Les animaux seront en résidence au zoo de Vincennes pendant des décennies. Il faut ensuite attendre 2012 pour que Nicolas Sarkozy obtienne le prêt de deux nouveaux pandas. Ils s'appelaient Wan Wan et Wan Zi. Ce sont eux qui quittent la France demain.
Ils quittent la France demain et d'ailleurs, ils ont eu des enfants.
Et oui, trois bébés pandas qui appartiennent eux aussi à la Chine, hein, c'est la règle.
Ah, je pensais qu'on pouvait quand même au moins garder les petits.
Alors attendez, j'y viens. Ah. Alors, un d'entre eux, un de ces trois enfants est rentré, mais les deux autres, a priori, sont partis pour rester chez nous. Le retour des parents n'est pas le signe d'un mécontentement de Pékin. Hein. Les animaux vieillissent et en fait, c'est la tradition. Ils vont finir leur vie où ils l'avaient commencé, dans la région du Sichuan, en Chine.
Ils retournent pour leur retraite en Chine.
Exactement. Parce qu'on n'a plus l'argent pour les payer.
Du panda avec Arthur Chevalier, 7h24, Arnaud Demange.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Bonjour, bonjour.
Dans le face-à-face tout à l'heure sur RMC BFM TV, je reçois le coordinateur, comme on dit, de la France Insoumise, bref, le patron, député LFI des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard.
Oui, Manuel Bompard. Qui est député de Marseille, qui explique son petit accent chantant, oui. qui sent bon le chou-fleur, hein, il est dans la Loire, hein. Il n'est pas de Marseille. La France Insoumise qui s'est mise en ordre de bataille ce week-end pour la campagne des élections municipales. Alors il y aura des listes LFI dans plus de 500 communes, y compris dans des municipalités sortantes de gauche. Ils veulent reconquérir Roubaix, Montpellier, Lille, Toulouse, Marseille, Khan-Younes, Rafah, pas Deauville. Ils ont pas, et Neuilly-sur-Seine, pas sûr qu'ils la prennent. Villejuif, aucune chance. Manuel Bompard était à la marche blanche pour Mehdi Kessassi ce week-end. On sait qu'il est contre la drogue. Hein, Apolline, quand vous le recevez, vous vous dites pas, tiens, il a pris du gaz hilarant avant de venir, Manuel Bompard. Non, il est pas très protoxyde d'azote. Il soutient l'augmentation moyens pour la justice afin de lutter contre le narcotrafic, mais il souhaite aussi une réflexion sur le volet santé, c'est-à-dire traiter le problème sous l'angle de l'addiction. D'ailleurs, si on légalise, ça va être un drame pour les rappeurs marseillais. Parce que autant le trafic, c'est cool à raconter, autant la gestion d'une boîte qui fait du commerce de cannabis. Le bise, c'est la Zermi. C'est légal, c'est la Zermi. Hier, le comptable m'a dit qu'on était en retard sur la déclaration de TVA. Pourtant, j'avais bien rempli le bon formulaire CERFA. Mais l'URSSAF a prélevé plus que ce qu'on avait anticipé sur les comptes du troisième trimestre. La conjoncture, tu connais. En boîte organisée, l'URSSAF va nous canaliser.
Ce sera moins bien chez Soprano.
Bon.
Alors, Sébastien Delegu a suggéré de confier la vente de cannabis aux dealers en cas de légalisation. Alors, c'est contre-intuitif, mais pourquoi pas? De la même façon, les voleurs du Louvre, on pourrait leur demander de poser le double vitrage chez nous. Ils savent faire, quoi, ils s'y connaissent. On devrait, vous savez, on devrait demander plus souvent à des curés de faire du babysitting. C'est vrai qu'ils adorent les enfants. Bon, bah là, c'est la même idée. Ça va encore râler, d'ailleurs, la réception de Manuel Bompard chez nos voisins de BFM Business, chez le couple Emmanuel Le Chypre, Edwige Chevrillon. Ils vont regarder par la fenêtre. Emmanuel! Il y a une vieille voiture garée devant la maison. Qui reçoivent encore les punks de RMC?
Attends, Moumoune, je regarde. Oh non, c'est Manuel Bompard de la France Insoumise.
Emmanuel, dis aux enfants de rentrer. Geoffroy Roux de Bézieux, Nicolas Bouzou, rentrez à la maison tout de suite. Je ne veux pas vous voir traîner avec des gauchistes.
Oui, rentrez à la maison, les enfants. Il y a un drogué à la dépense sociale qui rôde.
Et allez, rendez-vous avec Manuel Bompard. À 8h30.
Vivement, vivement, Manuel Bompard. Donc à 8h30. Et un autre manche qu'on retrouve d'ici là à 8h15. Il est 7h27. À tout de suite pour la météo et le journal. 7h29 et c'est encore de la pluie, Géraldine.
Beaucoup de pluie, oui, pour aujourd'hui, si bien qu'on a même trois départements en vigilance orange, la Gironde, la Dordogne et la Corrèze en vigilance orange pour de fortes pluies, des risques d'inondations. Il va beaucoup pleuvoir de l'Aquitaine jusqu'aux frontières de l'Est. D'ailleurs, en montagne, ça se traduit par de grosses chutes de neige. Attention au risque d'avalanche qui est marqué pour les Alpes. La Corse aussi sera sous la pluie. Sur le Nord-Ouest, il y aura des éclaircies, mais il y aura aussi de bonnes averses, parfois orageuses, parfois sous forme de grésil et avec beaucoup de vent. En revanche, les températures sont très nettement remontées ce matin. C'est la douceur qui domine. Cet après-midi, on aura 8 degrés à Lille, 10 à Paris, 13 à Nantes, 14 à Bordeaux, 16 à Marseille, jusqu'à 17 pour Perpignan. Et il fera à nouveau plus frais demain avec des averses un peu partout.
La météo sur RMC avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Omiris, un service opéré par EPS Agri CNAPS.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le débat sur les rythmes scolaires relancé par les conclusions de la Convention citoyenne qui préconise notamment de faire revenir les élèves à 5 jours d'école par semaine. Des difficultés dans l'armée pour recruter et fidéliser, c'est l'enquête d'RMC ce matin, alors que le président devrait annoncer cette semaine un nouveau service militaire volontaire. Et puis une exclue RMC, les Français sont 22% de plus qu'il y a 4 ans à mettre leur véhicule en location pour arrondir leur fin de mois.
Faut-il revoir les rythmes scolaires de nos enfants?
C'est ce que préconise la Convention citoyenne mandatée à l'époque par le gouvernement Bayrou avec 20 propositions comme le retour à la semaine de 5 jours dans les écoles élémentaires, des cours de 45 minutes maximum qui ne démarreraient pas avant 9h et des activités l'après-midi, autant de mesures qui pourraient, Solène Leroux, être reprises par l'exécutif.
Le rapport est d'ores et déjà à la disposition des ministres concernés, nous assure un conseiller. Les ministères ont plusieurs semaines pour analyser les propositions, nous dit-on encore. Des discussions s'engageront ensuite logiquement avec les parlementaires, les élus locaux aussi. Certains ont d'ailleurs déjà été contactés par quelques-uns des 133 participants à la convention pour que ce rapport ne prenne pas la poussière sur une étagère. Ces citoyens restent donc vigilants dans ce contexte politique instable. Le sort des deux premières conventions citoyennes a de quoi leur donner un peu d'espoir. Pour le climat, 70% du rapport a été repris, tandis que celui sur la fin de vie a abouti à deux propositions de loi, même si elles ne sont pas encore définitivement adoptées.
7h32 sur RMC, et un nouveau cas d'antisémitisme à l'université. Cette fois, il vient d'un professeur de l'université Lyon 2. Cet enseignant d'histoire médiévale a dressé une liste de personnalités à boycotter, personnalités qu'il qualifie de génocidaires, Inès Zegloul.
Des personnalités listées, numérotées de 1 à 20, entre autres Charlotte Gainsbourg, le réalisateur Yvan Attal, ou encore Arthur, l'animateur. Dans un post sur les réseaux sociaux, l'enseignant reprend les noms des signataires du une tribune qui appelait à conditionner la reconnaissance de l'État de Palestine et les qualifie de génocidaires à boycotter en toutes circonstances. Une attitude ignominieuse, pointe la LICRA, qui voit une provocation à la discrimination et à la violence. Jonathan Arfi, président du CRIF et nommément cité par l'enseignant, parle lui d'un choc.
Parce qu'il a choisi d'attaquer des personnes juives ou assimilées au combat contre l'antisémitisme, c'est quelque chose qui est grave et qui, à mon avis, mériterait des sanctions.
Contacté, l'administration de l'université Université Lyon 2 dit se désolidariser complètement et assure que des mesures seront prises. Le professeur, quant à lui, assume et sur ses réseaux sociaux réfute toute accusation d'antisémitisme. Il parle de calomnie à son encontre.
Il est 7h33 sur RMC et c'est une petite lueur d'espoir pour l'Ukraine après plus de 3 ans de guerre avec la Russie. Les pourparlers menés hier en Suisse avec les États-Unis ont permis de faire des progrès. C'est ce que dit le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, qui ne cache pas son optimisme. Et la position de Washington semble s'infléchir après avoir présenté un plan de paix plutôt à la faveur de Moscou. La Maison-Blanche a rappelé hier soir la nécessité de maintenir la souveraineté de l'Ukraine.
7h34 et c'est la menace russe qui est à l'origine de ce service militaire volontaire qu'Emmanuel Macron devrait annoncer cette semaine.
10 mois payés 900 à 1000 euros selon les informations de nos confrères de la Tribune dimanche. De quoi peut-être susciter des vocations et c'est nécessaire à l'heure où l'armée peine à recruter et à fidéliser. Alfred Orange.
Avec ce chiffre, 10% des effectifs militaires quittent tous les ans le service actif de l'armée de terre. Dans le lot, un chiffre ressort, celui des désertions, plus de 1000 chaque année. Des soldats souvent déçus par la réalité du métier. Maître Élodie Daumont est avocate en droit pénal militaire.
C'est l'inadéquation entre les espérances affichées, aller au combat, faire des OPEX, et puis finalement se retrouver alors en mission vigipirate ou autre, et sur des fonctions non intervenantes qui pour eux peuvent leur faire perdre le sens.
Un déficit d'attractivité que l'armée essaye de combler en améliorant salaire et prise en compte de la vie familiale. Le général Arnaud Goujon est sous-directeur du pôle recrutement jeunesse dans l'armée de terre.
On a revalorisé les grilles salariales de nos sous-officiers dans un premier temps, de nos officiers tout récemment. On a mis en place tout un plan d'accompagnement pour les familles avec un travail sur l'offre d'école, l'offre de logement quand les gens déménagent, parce que la mobilité c'est un des marqueurs important d'une carrière militaire.
Et l'enjeu est de taille. D'ici 2030, le ministère des Armées compte engager 6000 militaires de carrière supplémentaire.
Une enquête RMC signée Alfred Orange. Il est 7h35, louer sa voiture pour arrondir ses fins de mois. La pratique séduit de plus en plus de Français. C'est ce que nous apprend une étude réalisée par la plateforme de location Turo, qu'RMC vous dévoile en exclusivité ce matin. Le nombre de loueurs a augmenté de 22% en 4 ans. Et cette année, près d'un tiers d'entre eux a réussi à générer plus de 500 euros par mois. Une aubaine, notamment pour ceux qui utilisent très peu leur véhicule, Ameline Lafchin.
Comme à chacun de ses passages en Ile-de-France, Emmanuel passe chez Florian.
Vous allez bien ?
Elle est là pour lui rendre les clés de sa voiture qu'elle lui a louée 31 euros pour une durée de 24 heures.
C'est bien passé ?
Oui, j'habite Marseille, je vais voir ma maman et je l'aide pendant une journée à faire des courses et on a besoin d'une voiture pour bouger en fait.
C'est l'état
oui,
des lieux ?
Oui, l'état des lieux.
Quand étant commercial, j'ai une voiture de fonction. Donc ça veut dire que ma voiture, elle ne servait pas à grand chose.
Alors il y a 2 ans, Florian décide de louer sa voiture personnelle.
Les réservations se sont faites directement. Je crois que la première semaine, ça a été complet. C'est très intéressant parce que ce véhicule, il peut me rapporter jusqu'à 400 euros par mois. C'est vraiment énorme. Je fais des restaurants avec madame, des petits cinémas. Là, on a mis de l'argent de côté. On part à Arcachon dans 2 semaines.
Et ce complément de salaire, selon Alette Dassigny du Club Automobile Roule, il permet surtout aux propriétaires de rentabiliser le coût de leur voiture.
Le budget mensuel moyen, c'est 416 euros. C'est quand même des pratiques de débrouille qui sont devenues un peu courantes parce que le budget moyen est trop élevé, quoi.
Selon une étude de l'association des acteurs de l'autopartage, 80% des usagers estiment que louer une voiture revient moins cher que d'en posséder une.
Le quintet, c'est à 13h55 sur l'hippodrome de Vincennes. Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 4, Jamaica Brown. L'outsider, c'est le 13, Joria Méloise.
Merci Élise, il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
L'un des 100 détenus les plus dangereux de France, dans la nature, toute la journée, sans escorte, et c'est légal, c'est la procédure. Bonjour Justine Gerbeau.
Bonjour.
Vous êtes la porte-parole de l'administration pénitentiaire. Dans quelles conditions cette sortie a-t-elle été rendue possible ? Que va faire ce détenu dans la nature, à traverser la France toute la journée, tranquille, sans escorte ? Faut-il faire évoluer la loi ? Comme le demande le ministre de la Justice, je vous pose toutes ces questions et vos explications dans un instant, il est 7h37.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Excellent réveil à tous à l'écoute d'RMC ou en regardant RMC Story. Il est 7h41. Une permission de sortir qui fait scandale. Un homme de 52 ans, connu comme l'un des plus gros barons de la drogue en Seine-Saint-Denis, retenu dans l'une des prisons de haute sécurité, va pourtant être libre, libre toute la journée et sans escorte policière. Bonjour Justine Gerbeau.
Bonjour.
Vous êtes la porte-parole de l'administration pénitentiaire. Cet homme, il est pourtant emprisonné à la prison de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Il a obtenu cette permission de sortir pour passer un entretien d'embauche dans la région lyonnaise. Il va donc passer d'un cadre dans lequel il est sous surveillance 24/24, dans lequel il n'a pas le droit au téléphone portable, dans lequel tout est contrôlé, à une journée où il peut faire ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il peut prendre le TGV, se promener, utiliser le téléphone de sa femme. C'est une journée libre avec simplement l'obligation de cet entretien d'embauche. Est-ce qu'on est bien d'accord ?
Effectivement, ce détenu a obtenu le bénéfice d'une permission de sortir, donc sur les horaires qui ont été validés par l'autorité judiciaire, puisque je rappelle, l'octroi d'une permission de sortir est avant tout une décision de justice, c'est un juge d'application des peines qui a pris cette décision. Et donc pendant la durée des horaires qui lui ont été autorisés, il va pouvoir donc se rendre à son rendez-vous et effectivement il ne sera pas contrôlé dans ses actions aujourd'hui.
Vous le dites bien, c'est le juge d'application des peines qui en a décidé ainsi, alors que le directeur de la prison avait un avis défavorable. Le parquet avait un avis défavorable. C'est donc le juge d'application des peines qui, malgré ses avis défavorables, a autorisé cette sortie. Je précise que le détenu en question avait déjà fait une tentative de s'échapper d'une prison. C'était en 2014, avant d'être rattrapé par la justice. Ça vous choque ?
C'est effectivement une décision de justice. Je peux pas commenter une décision de justice. Donc le juge d'application des peines effectivement a pris cette décision dans une instance collégiale, comme toutes les permissions de sortir. Donc au cours de laquelle plusieurs acteurs et notamment mon collègue le chef d'établissement de Vendin-le-Vieil a donc émis un avis défavorable. Le parquet était également défavorable, a formé appel contre la décision du juge d'application des peines et cette décision a été validée en appel. Donc voilà, c'est vraiment une décision de
la
justice.
Dites ce matin, c'est que, aussi absurde que ça puisse paraître, alors je comprends bien que c'est pas, vous ne pouvez pas vous autoriser ce type de vocabulaire, vous qui êtes porte-parole, mais concrètement, on se retrouve avec un détenu qui passe de l'ultra haute sécurité, qui est considéré comme l'un des 100 les plus dangereux, c'est-à-dire ceux qui en priorité ont été placés dans cette nouvelle prison de ultra haute sécurité, qui va passer donc de ce cadre-là à une journée où, on est bien d'accord, il peut techniquement prendre le TGV avec sa femme, être assis parmi les passagers, c'est ça qui peut se passer ?
Effectivement, il a été autorisé donc à sortir et donc à se rendre à un rendez-vous employeur en dehors de la région, en dehors de la.
Mais ses sorties sont non encadrées, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'escorte.
C'est le principe de la permission de sortir. Vous avez effectivement évoqué le cadre très contraignant du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. C'est le cas. Ce cadre a été créé par la loi narcotrafic juste avant l'été. Cette loi n'a pas prévu de dispositions particulières spécifiques dans le cadre de l'application des peines.
Il y a un petit manque.
En tout cas, cette situation nous oblige à nous questionner. C'est d'ailleurs à ce titre que le garde des Sceaux, dès ce week-end, a indiqué qu'un projet de loi serait déposé en début d'année prochaine pour adapter justement ce régime spécifique.
Donc en fait,
la prise en charge à l'extérieur, enfin en tout cas pour l'application des peines.
On a adapté la prison, on a fait des travaux, on a fait en sorte que ce soit vraiment une prison prioritaire pour les ultra-dangereux, mais on n'a pas modifié les règles de sortie.
Non, alors c'est le cadre général du coup qui a vocation à s'appliquer pour l'ensemble de ces détenus. Comme je le disais, le ministre l'a rappelé dès ce week-end. Effectivement, il y a sans doute besoin de se questionner sur ce cadre général et de l'adapter pour permettre au juge d'application des peines qui prennent ces décisions d'avoir la pleine connaissance des profils qui sont pris en charge.
La question, c'est donc l'autorisation de sortie, mais c'est ensuite le cadre, c'est-à-dire c'est sa femme qui va venir le chercher, qui va l'emmener à ce rendez-vous. Comme je le disais, il y a 600 km entre Vendin-le-Vieil et la région lyonnaise dans laquelle il aura ce rendez-vous. Il ne peut pas ne pas prendre le TGV, sinon il ne sera pas revenu à temps. Ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, il va se promener sans escorte dans la France. Brahim réagit, et d'ailleurs vous êtes nombreux à réagir, mais Brahim, vous êtes au téléphone avec nous. Vous nous appelez de Saint-Laurent-du-Var. Vous êtes chauffeur de bus. Votre réaction ?
Oui, bonjour Apolline.
Bonjour Brahim.
Ma réaction, c'est que la justice tombe sur la tête. Hein. Il devrait modifier les règles de sortie. Là, il sort de prison, il ne sera pas surveillé. Il y a un risque de cavale. Moi, je pense qu'il y a une chance sur deux qu'il ne reviendra pas en prison, vu que ça a sorti en 2029. Je pense pas qu'il reviendra en prison ce soir. Hein.
Alors, attendez, parce que à l'instant, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, visiblement face à cette levée de boucliers, y compris de l'opinion publique qui hallucine depuis hier, annonce à BFM TV un dispositif, je cite, un dispositif sera mis en place tout au long de sa sortie. Alors je ne sais pas encore de quel dispositif il peut s'agir. Brahim, restez avec nous. Ça veut quand même dire que concrètement, il peut y avoir quoi ? Des policiers en civil autour, des personnels pénitentiaires ? Qu'est-ce que ça peut être, ce dispositif, pour citer le ministre de l'Intérieur ?
Alors, de toute façon, ce dispositif ne pourra être qu'un dispositif mis en place avec des forces de l'ordre. Ça ne pourra pas être du personnel pénitentiaire. Le cadre ne le prévoit pas. On est dans le cadre d'une permission de sortir employeur classique, comme il y en a tous les jours. Alors certes, pas à l'établissement de Vendin-le-Vieil, mais en tout cas, il y en a tous les jours. C'est un des outils indispensables de la réinsertion et de la préparation à la sortie des personnes détenues que l'administration pénitentiaire prend en charge. Mais là, en l'occurrence, sur ce type de permission de sortir, effectivement, il n'y a pas d'accompagnement prévu. On est dans un cadre de responsabilisation, d'autonomisation aussi de la personne détenue pour la préparer à sa sortie.
C'est-à-dire, en fait, on les responsabilise. C'est super. Non, mais on a regardé quand même un peu le...
Bien sûr, c'est l'objectif de la permission de sortir. Encore une fois, je vous l'ai dit, le process normal d'attribution d'une permission de sortir, c'est une instance collégiale. Donc voilà, il y a plusieurs personnes autour de la table qui déterminent l'opportunité ou pas d'octroyer cette permission de sortir.
Autre question, vous qui êtes la porte-parole de l'administration pénitentiaire, on a bien compris que cette autorisation de sortir, elle est justifiée par cette rencontre avec un potentiel employeur. On est en 2025, la sortie prévue de ce détenu, c'est 2029. Y avait-il urgence ?
Là encore, on est dans un cadre... Alors certes, effectivement, ce qui fait la spécificité de cette permission de sortir, c'est l'affectation de ce détenu au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Mais là encore, on n'est pas dans une situation inhabituelle ou anormale. L'octroi de permission de sortir arrive en fait au moment où la personne détenue devient éligible à demander un aménagement de peine. Et cette éligibilité à un aménagement de peine est proportionnelle à la partie de peine qu'elle a pu effectuer et la partie de peine qui lui reste à effectuer.
Et ça fait quand même un bout de temps, en effet, que ce détenu est en prison. Une question au 32-7.
Oui, celle de Dominique, sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424, je vous passe sa colère et sa surprise, hein, on en a déjà parlé. Il pose une question simple, pourquoi pas une visio pour un entretien d'embauche ?
Là encore, c'est à l'appréciation du magistrat. Hein. Les modalités de la permission de sortir, en tout cas, n'ont pas été décidées ou discutées ou organisées par l'administration pénitentiaire. La personne détenue a fait une demande de permission de sortir pour rencontrer cet employeur comme il y a droit.
En distanciel, puisqu'il y avait l'enjeu de cet entretien.
En tout cas, l'autorité judiciaire a estimé que les caractéristiques, enfin les éléments étaient.
Vous précisez à chaque fois. Je vais quand même être très clair. Et je sais que votre job est difficile, hein, Justine Gerbeau. Vous êtes porte-parole. Vous devez faire attention à chaque mot que vous utilisez et rester dans le cadre effectivement du respect de la procédure. Encore une fois, on le dit, et c'est d'ailleurs ce qui rend tout le monde assez surpris au minimum. Et encore, je pèse mes mots. C'est que la procédure, elle a justement été respectée.
Tout à fait.
Mais des personnels pénitentiaire dénonce, je cite, une décision déconnectée de la réalité. Des visios, comme le dit Mathieu à l'instant, pour des entretiens d'embauche, désormais, c'est tout à fait monnaie courante. Comment est-ce que c'est possible que dans un cadre comme celui-là, votre voix à vous, c'est-à-dire la voix du personnel pénitentiaire, n'ait pas été davantage entendue ou écoutée par la justice ?
Au sein de l'établissement pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, effectivement, il a été envisagé aussi tout un tas de dispositifs pour limiter le nombre de sorties. Donc peut-être effectivement que le projet de loi que va présenter le ministre en début d'année prochaine doit aussi orienter davantage sur la dématérialisation de ces entretiens et peut-être privilégier la forme de la visio aussi pour ce type de...
Espérons-le. En tout cas, on l'apprend donc à l'instant face à cette levée de bouclier. On annonce donc à l'instant, c'est Laurent Nunez qui l'annonce, un dispositif d'accompagnement. Alors, on ne sait pas encore exactement sous quelle forme ce sera, mais vous venez nous donner en tout cas une partie de la réponse, Justine Gerbeau, puisque vous nous dites qu'il ne s'agira pas en tout cas de personnel pénitentiaire. Justine Gerbeau, porte-parole de l'administration pénitentiaire, merci à vous. Dans un instant, la voix de droite d'RMC. Bonjour Louis Sarkozy.
Bonjour Apolline.
C'est le débat qui agite la classe politique en ce moment. Faut-il un retour du service militaire ? Vous allez même plus loin. Vous êtes pour une forme de loterie qu'on fasse français à travers ce service.
Exactement ça, c'est toujours l'armée qui a fait la France. Alors, service obligatoire, pas forcément, mais volontaire absolument.
Et vous nous le dites dans un instant, il est 7h51. Très belle journée à tous, à l'écoute d'RMC, il est 8h.
RMC. Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La réponse de l'administration pénitentiaire ce matin sur RMC à la permission de sortir accordée à un narcotrafiquant de la prison de Vendin-le-Vieil, détenu qui va traverser la France aujourd'hui pour un rendez-vous professionnel sans aucune escorte policière. Les narcotrafiquants en question ce matin ont-ils gagné à Marseille? Des travailleurs sociaux, vous les entendrez, refusent de retourner sur leur lieu de travail dans un quartier gangréné par le trafic. Et puis réaction des syndicats d'enseignants ce matin au débat sur les rythmes scolaires et la proposition notamment de passer à la semaine à 5 jours pleins dès l'alimentaire, proposition de la Convention citoyenne sur le sujet.
Et donc ce matin, l'un des détenus les plus dangereux de France est dans la nature.
Un baron de la drogue de 52 ans qui purge une peine de prison pour narcotrafic et qui a même été transféré pendant l'été à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil où sont incarcérés les criminels présentés comme les plus dangereux du pays. Et pourtant, ce détenu a obtenu une permission de sortir de la part de la justice pour se rendre à un rendez-vous professionnel dans la région lyonnaise, à l'autre bout de la France, donc dans le cadre de son droit à la réinsertion. Romain Houck pour RMC, c'est la justice qui a donné ce feu vert, alors que le parquet et l'administration pénitentiaire s'y sont opposés.
Oui, initialement, c'est le juge d'application des peines de Béthune qui a émis cette permission de sortir, dite employeur, pour lui permettre de se rendre à un entretien d'embauche. Le parquet défavorable avait fait appel, mais la cour d'appel, cette fois, a confirmé cette autorisation de sortie qui est dans les clous de ce que prévoit la législation.
Et alors, il n'y aura pas, on l'a appris également, il n'y aura pas d'escorte policière pour l'accompagner.
Non, pas d'escorte, ce n'est pas le cadre habituel de ce type de permission de sortir, assure une source pénitentiaire. En fait, la loi narcotrafique mise en place avant l'été n'a pas prévu ce type de cas de figure. C'est ce que répond ce matin sur RMC Justine Gerbeau, porte-parole de la direction de l'administration pénitentiaire.
Cette loi n'a pas prévu de disposition particulière spécifique dans le cadre de l'application des peines.
Il y a un petit manque.
En tout cas, cette situation nous oblige à nous questionner. C'est d'ailleurs à ce titre que le garde des Sceaux, dès ce week-end, a indiqué qu'un projet de loi serait déposé en début d'année prochaine pour adapter justement ce régime spécifique.
Donc en fait, on a adapté la prison,
la prise en charge à l'extérieur, enfin en tout cas pour l'application des peines.
Alors néanmoins, ce détenu sera surveillé, a indiqué l'entourage du ministre de l'Intérieur, surveillé même de bout en bout. Un dispositif est mis en place tout au long de sa sortie, selon les informations de BFM TV. Les autorités lyonnaises ont évidemment été informées de la sortie de ce détenu particulièrement sensible, figure du narcotrafic en région parisienne, qui s'était déjà évadé de prison en 2014 à l'aide d'un commando armé.
Et alors polémique, quelques jours seulement aussi, après la marche blanche contre le narcotrafic et en hommage au frère du militant antidrogue qui a été assassiné à Marseille. Où il y a d'ailleurs cette nouvelle affaire ce matin à Marseille, dans les quartiers nord de la ville. Une cinquantaine de travailleurs sociaux refusent de retourner sur leur lieu de travail à la Cité des Flamands, terrorisés par les menaces des narcotrafiquants, Lionel Dian.
Les intimidations commencent au niveau des barrages filtrants que les narcotrafiquants des Flamands ont installés à l'entrée de la cité, comme l'explique cette travailleuse sociale.
On est obligé de slalomer donc les containers et autres qui bouchent la route et on est menacé par les guetteurs quand on essaye de se frayer un chemin. On dérange le réseau en quelque sorte.
Des menaces très explicites comme le détaille l'une de ses collègues.
Bouge, je vais te tuer, je te connais, bouge de là ou je vais t'en tirer une, dégage, ferme-la. J'ai peur pour ma vie. On demande à être protégé. Moi, j'en appelle à l'État. J'en appelle à mon département.
Des travailleurs sociaux qui ont déjà tiré plusieurs fois la sonnette d'alarme, ce qui n'a pas plu du tout aux dealers qui sont allés directement s'en prendre à leur directrice.
Il y a des gens qui sont rentrés qui lui ont dit « Si vos agents continuent à faire du bruit, donc à vous parler, mon média, on va venir avec des fleurs, mais ce ne sera pas des fleurs pour la gentillesse. Donc vous comprenez le message ou pas ? C'est une menace de mort, là. »
Des agents qui jusqu'ici n'ont pas été rassurés par les propositions du conseil départemental pour améliorer leur sécurité. Une nouvelle réunion pour tenter de trouver une solution devrait avoir lieu dans la semaine.
C'est dans la semaine et possiblement jeudi qu'Emmanuel Macron doit annoncer le nouveau service militaire pour volontaires des 18 ans dès l'année prochaine d'une durée de 10 mois et rémunéré à hauteur de plusieurs centaines d'euros avec l'objectif de recruter de 10 à 50 000 jeunes par an donc pour les rangs de l'armée dans le contexte de la guerre en Ukraine avec les pourparlers qui sont jugés constructifs entre Américains et Ukrainiens qui ont discuté toute la journée d'hier en Suisse du plan de paix proposé par les Américains. L'avancée de la soirée, c'est que ce plan, nous dit-on, respecterait la souveraineté de l'Ukraine. Il y a ce matin le débat sur les rythmes scolaires. Il est relancé avec les 20 propositions que vient de rendre la Convention citoyenne qui planchait sur le sujet depuis le printemps, précisément sur le rythme des enfants.
La principale idée, c'est donc de repasser à la semaine à 5 jours dès l'élémentaire, 5 au lieu de 4 ou 4,5 par endroit, pour alléger les journées et mieux étaler les temps d'apprentissage. Proposition qui rappelle grandement, souvenez-vous, la réforme de 2013 sous François Hollande, réforme qui avait fini par être abandonnée, comme le rappelle ce matin sur RMC Aurélie Gagné du syndicat d'enseignants SNUIPP-FSU.
On y est revenu parce que ça ne fonctionnait pas, ça n'améliorait pas l'école en général, ça ne réduisait pas les inégalités, ça faisait des élèves fatigués, des enseignants épuisés, les enseignants n'en peuvent plus, les conditions de travail ne sont pas bonnes, c'est un métier qui ne va pas très bien. On ne peut pas améliorer l'état de l'école en étalant les heures d'enseignement sur les 5 jours. Ça ne marchera pas et les enseignants ne suivront pas. Donc, en l'état, c'est non.
Alors, une autre proposition, on parle bien de proposition, on ne sait pas encore si ce sera repris, c'est de passer de 3 à 2 zones de vacances scolaires pour faciliter en fait la vie des familles recomposées, mais en conservant quand même les 16 semaines, le total de 16 semaines de vacances à l'année. Appel à la prudence ce matin en Gironde, en Dordogne et en Corrèze, dans les 3 départements placés en vigilance orange pour pluie et inondation. Il y a le risque que ça déborde avec l'équivalent de 3 semaines de précipitations attendues d'ici demain. Le foot, c'est Lille qui revient à la 4e place de la Ligue 1 ce matin à l'issue de la 13e journée grâce à sa victoire 4 buts à 2 hier soir, c'était contre le Paris FC avec un doublé d'Olivier Giroud. Et puis l'heure est au bilan pour les Bleus du rugby qui ont bouclé leur tournée d'automne par une victoire samedi contre l'Australie, mais qui laisse quand même une impression mitigée hein, et qu'on espère revoir un petit peu plus en forme dans 2 mois pour le tournoi Destination, Wilfried Templier.
Oui, si les Bleus ont mieux fini et passé 7 essais aux Australiens grâce à des funambules comme Bielbiaré ou deux porteurs, on n'oubliera pas que leur défense et leur discipline ont été des points faibles en novembre. Le capitaine Grégory Aldrit en est conscient.
Il y a trop de fautes. On sait que les matchs de tournoi, ça peut se jouer à moins de 3 points. Donc ça va être à nous individuellement, chacun, de travailler dur pour progresser dans ce domaine et être plus performant voilà, défensivement.
Et maintenant, un autre combat va aussi se mener sur les routes de la prochaine Coupe du Monde. Une négociation entre la fédération et les clubs professionnels pour la mise à disposition des joueurs. Et depuis des semaines, le sélectionneur Fabien Galthié multiplie les signaux et se plaint du manque de temps pour travailler avec son groupe, citant les autres nations en comparaison.
Nous, on fait, on va dire, 8 matchs en novembre et durant les 6 nations avec la meilleure équipe possible. Les Australiens auront joué 16 matchs. Toutes les nations jouent des matchs de plus. On a 8 semaines avant de retrouver les joueurs. Ils partent sur 8 semaines de compétition en club. Alors que les Irlandais, eux, ils vont bien se préparer pour l'ouverture du tournoi.
Le combat promet d'être également âpre en coulisses. Sur le terrain, les Bleus retrouveront les Irlandais le 5 février prochain au Stade de France pour l'ouverture du tournoi à destination.
Ouverture du tournoi à destination exceptionnellement un jeudi pour ne pas tomber en même temps que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui aura lieu le lendemain.
C'était le journal de Quentin Vinet, 8h08. C'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel Le Chypre.
Bonjour Apolline.
Emmanuel, travailler 7, 8, 9 ou 10 jours consécutifs, est-ce que c'est légal?
Alors, combien de jours effectivement est-il légal de travailler de suite sans bénéficier du moindre jour de repos? C'est un sujet qui a suscité de nombreux litiges déjà entre salariés et employeurs, dont celui qu'avait à trancher la Cour de cassation vendredi, le cas d'un commercial que son entreprise a fait plusieurs fois travailler 11 jours, voire 12 jours consécutifs. Il avait fait valoir son droit au repos hebdomadaire au prud'homme. Eh bien, la juridiction la plus élevée de l'ordre judiciaire a décidé de donner raison à l'entreprise.
À l'entreprise, et c'était à l'occasion, il faut le préciser, de salons professionnels qui s'enchaînaient. Exactement. Les uns les autres. Comment la Cour de cassation a justifié sa décision?
Alors, pour elle, tout dépend de la notion qu'on donne à repos hebdomadaire. Le Code du travail dit qu'un salarié doit bénéficier d'au moins un jour de repos par semaine, ce qui est la plupart du temps interprété comme 6 jours de travail, 1 jour de repos, 6 jours de travail, 1 jour de repos. Or, la Cour de cassation nous dit qu'une semaine, ça n'est pas 7 jours qui se suivent, c'est une période qui va du lundi au vendredi. Autrement dit, un salarié peut travailler du mardi de la première semaine au samedi de la semaine suivante, ça fait 12 jours d'affilée, puisqu'il a bien eu 1 jour de repos dans chaque semaine civile,
par exemple, lundi.
Le lundi, et puis le dimanche de la semaine d'après. Donc entre les deux, on peut travailler
12 jours d'affilée. Les entreprises, elles obtiennent un peu plus de souplesse, et c'est en contrepartie du faible temps de travail des Français,
oui,
c'est
ça l'idée. Exactement, hein, la France est le pays dans lequel le nombre d'heures travaillées par habitant est le plus faible de tous les grands pays, c'est 666 heures par habitant, nous dit l'OCDE. C'est 776 dans l'Union européenne, c'est quasiment 3 semaines de travail en moins en France. Donc oui, les Français doivent collectivement travailler plus, sauf que toutes les tentatives légales échouent. Regardez, les sénateurs, ils ont voté samedi une augmentation de la durée annuelle du travail de 12 heures supplémentaires, 15 heures 15 minutes, pardon, par semaine. Mais cette proposition n'a aucune chance de survivre au circuit parlementaire, comme les deux jours fériés de François Bayrou.
Comme tout ce qu'il y a dans ce budget.
Oui, comme tout ce qu'il y a dans ce budget. Reste à essayer de faire travailler davantage de Français, plutôt que de faire travailler davantage les Français qui ont déjà en boulot. Ça, c'était le but de la réforme des retraites, mais qui est, elle aussi, un peu fragilisée aujourd'hui.
Ça ne fonctionne pas très bien, hein, ce budget, on le sent bien.
Travailler moins,
on verra à la fin. Merci, Emmanuel. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
À suivre sur RMC, Arnaud Demange qui va venir nous rejoindre. Ensuite, il y aura le face-à-face. C'est le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, qui sera mon invité à 8h30. Et puis juste après le face-à-face, comme tous les matins, ce sera face à Canteloup à 8h50. Pour l'heure, il est 8h10, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Arnaud Demange qui nous rejoint à 8h14, qui court dans ce studio, tellement il est heureux de nous retrouver. Salut Arnaud.
Ça va, c'était bien ce week-end sous la neige. Oui. Vous avez kiffé, il a neigé. Du coup, on a tous eu un petit mot du boomer de la famille dans le groupe WhatsApp.
Alors, le réchauffement climatique.
Le boomer climato-sceptique, dès qu'il y a un flocon, en fait c'est sa quinte flush, pour les scientifiques du GIEC. C'était super beau. Allez, l'actu. Nicolas Sarkozy, quand même, qui publiera son nouveau livre, Le journal d'un prisonnier. Le 10 décembre, ça parlera de son expérience en prison. Seulement 21 jours en prison et déjà un livre, hein, dans ton cul, Boualem Sansal. Voilà. Boualem Sansal, un an en cabane, toujours pas de livre annoncé. Et ça se dit écrivain. Bravo, Boualem, bravo. Donc 3 semaines à manger des yaourts et à boire de l'eau. En fait, il a expérimenté ce que font toutes les femmes au mois de mai quand elles savent qu'elles vont bientôt devoir remettre un maillot de bain. C'est pas un livre qu'il aurait dû faire, c'est un article dans Biba. 3 semaines comme expérience, c'est tout petit. C'est un rapport de stage, en fait, son truc. Moi, j'ai passé 3 semaines au Loukéa de Djerba en 2013. J'ai pas écrit journal d'un bédouin. 3 semaines, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, ça sort le 10 décembre et c'est le cadeau de Noël idéal pour les petits comme pour les grands.
Les éditions Fayard présentent une épopée dramatique. La résilience d'un homme enfermé dans les geôles d'un dictateur centriste pendant 20 jours et ne se nourrissant que de bifidus actifs. Extrait. Lundi, 7h du matin, 3e jour de captivité. Je me lève pour prendre mon petit déjeuner car en prison, on se lève tous pour Danette.
Ça n'a aucun sens.
Je vais avoir des sous avec ça. Mon regard ne rencontre que les murs froids de la prison. J'aimerais tant voir l'extérieur. Heureusement, j'ai emporté 3 livres. Du coup, je peux faire une pile avec et monter dessus pour regarder par la fenêtre. J'ai reçu une lettre de Nadine Morano. C'est gentil de sa part. Même si m'envoyer des photos d'elle en guêpière pour me faire tenir n'est pas l'idée du siècle. C'est une adaptation qui va aussi connaître l'adaptation en film, déjà prévue par Canal+, avec dans le rôle de Sarkozy, Tom Cruise.
Ah oui, bah.
Et Pierre Ninet dans le rôle du yaourt 0%. Richard Berry dans le rôle du Sveltes. En tout cas, les critiques sont bonnes. J'ai lu celle de Mediapart qui a eu les bonnes feuilles. Ils ont dit vivement le tome 2. Ils sont déjà motivés.
Ah ouais, vraiment, déjà le tome 2. Rachida Dati s'est mise en scène avec les éboueurs de Paris dans une vidéo de campagne.
Vous l'avez vu la vidéo?
Ah oui.
Elle est rigolote quand même. Donc, allez la regarder, on va se régaler pendant les municipales. Donc on la voit ramasser les déchets à l'arrière du camion. Imagine la tête des éboueurs quand ils ont vu arriver Rachida Dati pour leur filer un coup de main à 5h du mat qui a dû faire « Hey les gars, j'arrive, je te... Ouf, c'est dur votre boulot, hein ?» Ça pue, on dirait une réunion de la CGT spectacle. Ça sent l'intermittent ici, hein. On se croirait dans la régie RMC.
Hey, un peu d'humour les gars, ça vous fera pas de mal. Lumière.
Elle a dû en profiter pour jeter ses dossiers gênants à elle. Bon, les gars, ça vous dérange pas si on passe à côté de chez moi? J'ai des vieilles factures et des vieux contrats qu'il faut pas qu'on trouve. Et alors après sa tournée, Rachida Dati est passée dans les immeubles pour demander des étrennes. Bonjour les pauvres, je viens pour les étrennes des éboueurs, alors je prends l'argent liquide, les bijoux, l'immobilier, tableau de valeur, contrat de lobbying à 500 000 euros.
Oui mais vous savez, avec ma petite retraite,
vous pouvez certainement faire quelque chose. Tenez votre appart, il est moche, mais je le prends en viager quand même. Allez, en cadeau, les calendriers des mecs des poubelles, c'est pour moi, joyeux Noël.
L'Assemblée nationale, Arnaud, a rejeté le budget à quasiment l'unanimité.
Oui, quasiment, pourquoi?
Parce qu'il y en a un
qui a voté, un seul sur 577, et il s'appelle
Harold Huart, député Lyotte d'Eure-et-Loire. Harold Huart, ça fait nom de personnage d'Harry Potter. Harold Huart, très joli prénom, Harold.
Oui, oui, bien sûr.
Magnifique. Et Harold, très joli prénom, il a dit, oui, tout le monde critique le budget, mais moi j'aime bien, j'ai voté. Ça doit être la personne la moins difficile de France. Au foot, je pense qu'il est supporter du FC Metz. Là, non, mais ça joue pas si mal que ça, moi j'aime bien, j'ai dit oui. Il passe ses vacances à Roubaix. On critique, mais c'est joli, non, Roubaix, oui, moi j'aime bien. Je suis allé faire du shopping au magasin Chine, voilà, c'était chouette. Et après, je suis allé manger à la pataterie, hein, sur la zone commerciale. Entre la halle aux vêtements et le Noroto.
C'est bien ce budget,
critique,
non mais c'est bien
plus
ce
joli
budget.
Que ce qu'on dit, c'est joli. Harold, quand il fait l'amour à une conquête Tinder, il est toujours content. Il a, oui, mais j'ai bien aimé. Pas tous les Harold. Celui-là, Harold Huart. Il dit, non mais j'ai bien aimé son parfum. Elle m'a un peu rappelé une soirée raclette qu'on avait faite avec des amis à Grenoble.
Des bons souvenirs.
Je préfère être avec une femme comme ça parce que je sais qu'on me la piquera pas, voilà. C'est Harold Huart. Hein, c'est celui-là. Ouais. Ne passons pas à côté des choses simple avec Harold Huart.
C'est lui qui a voté le budget. Celui qui à tout jamais restera l'homme qui avait voté le budget. À demain, Arnaud. Il est 8h19 sur RMC et RMC Story. On va partir au standard. Il y a Dominique qui nous appelle de Montigny-les-Cormeilles en Val d'Oise. Bonjour Dominique.
Bonjour Apolline.
Comment ça va Dominique? Vous vouliez réagir à ce détenu qui est donc dans la nature. Là, il est 8h20, j'imagine qu'il est sorti. Pour un entretien d'embauche, il est l'un des plus dangereux de France et il est dans la nature.
Alors, l'entretien d'embauche, j'espère qu'on a vérifié la véracité de l'embauche. C'est peut-être pour gérer un nouveau point de deal. Lui confier un nouveau point de deal. Là, je crois qu'on marche sur la tête. On n'a pas retenu aucune leçon du passé, notamment l'affaire Amra, par exemple. Et là, vraiment, mais pourquoi pas une visioconférence? Je veux dire, déjà, on va mettre des moyens en place, de l'argent, pour aller déplacer ce détenu, prendre tous les risques. Et il y a des familles qui peut-être vont pleurer en cas d'homicide. Et on va nous expliquer que la loi a été respectée. Non, il y en a marre, là. Franchement, il y en a marre. Là, on marche sur la tête, là.
Et comme vous le dites, effectivement, et vous évoquiez la tragique évasion de Mohamed Amra, à l'époque, ce que le service pénitentiaire avait proposé, c'était une visio pour une rencontre avec le juge. Mais, en effet, le juge d'application, lui, en avait décidé autrement. Et là, pareil, Dominique, vous avez raison. Vous êtes chef d'entreprise, vous faites des visios, vous, pour embaucher, peut-être, de temps en temps?
Alors, moi, j'embauche plus, en fait. Je suis à la retraite, mais je travaille 2 jours et demi par semaine. Mais, ceci étant, j'étais chef d'entreprise. Et oui, j'ai fait des visios parce que d'abord, ça coûte moins cher, c'est plus rapide. Et il n'y a pas besoin de voir les gens nécessairement.
Et il n'y avait pas besoin de traverser toute la France, parce que Vendin-le-Vieil, quasiment à la frontière de la Belgique, jusqu'en région lyonnaise pour l'entretien d'embauche, ça veut dire que le détenu en question, au moment où on se parle, il est peut-être dans le TGV. Merci en tout cas, Dominique, d'être intervenu.
Tiens. RMC vous offre 120 000 euros.
Vous l'avez entendu, c'est l'alerte et c'est le tout dernier jour pour les gagner. C'est 120 000 euros, 100 000 euros pour vous, 20 000 euros pour la personne de votre choix. Si, quand on l'appelle, elle dit qu'elle écoute RMC et tout ça, c'est net d'impôts. Vous avez 10 minutes, tout pile, il est 8h22, 10 minutes pour vous inscrire. C'est la dernière fois que ça vous arrive, 10 minutes pour vous inscrire et pour envoyer RMC au 732-16, 120 000 euros à la clé. RMC au 732-16, il est 8h22, vous avez donc jusqu'à 8h32 pour jouer et vous inscrire et gagner les 120 000 euros. Dans un instant, c'est le face-à-face. Mon invité, c'est Manuel Bompard, le patron de la France Insoumise. Ce fameux budget, 125 heures de débat. Et tout ça pour rien, puisque ce budget a été rejeté et qu'on repart à zéro. Franchement, est-ce qu'il ne faut pas revoter? Appelez à la dissolution, je lui pose la question dans un instant. Il est 8h22.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 sur RMC et BFM TV. Bonjour Manuel Bompard.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le coordinateur de la France Insoumise. Vous êtes vous-même député LFI des Bouches-du-Rhône. Le budget qui repart à zéro quasiment et puis qui de toute façon a très peu de chances d'être adopté. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vous pose la question dans un instant, mais je voudrais d'abord vous interroger. Il est 8h29 au moment où on se parle. Vraisemblablement, se trouve dans la nature l'un des détenus considérés comme
les plus dangereux de France. Ils sont 100 à avoir été placés dans la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vielle. Le chef d'établissement avait dit non pour cette autorisation de sortir. Le parquet avait dit non. Et pourtant, le juge d'application des peines a accordé cette permission de sortir. Il va traverser la France sans escorte, avec un dispositif finalement décidé, semble-t-il, un peu à la dernière minute et en totale liberté. Est-ce que vous estimez que c'est normal?
Écoutez, je comprends qu'on puisse se poser la question. Évidemment, puisqu'on a dit c'est l'un des détenus les plus dangereux de France. Après, vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas seulement un juge d'ailleurs, il y a deux juges qui ont considéré qu'on devait travailler les conditions de sa réinsertion, puisque sa peine, elle va expirer un jour, il n'est pas condamné à vie, et que je pense que c'est légitime de se poser la question de savoir comment on travaille pour que la réinsertion elle se fasse dans les meilleures conditions. Et je crois que je comprends que les gens puissent se poser des questions, mais je pense qu'ils peuvent comprendre qu'on a plutôt intérêt que quand un détenu est libéré, eh ben on fasse en sorte qu'il ne soit pas tout seul dans la nature, précisément, et qu'on ait créé les conditions pour qu'il puisse avoir
est-ce
un
qu'on
retour
pas
dans
pu
la société,
imaginer
qu'il soit un retour dans les meilleures
les
conditions.
Choses différemment. Est-ce que cette décision est encore en adéquation, un, avec la création de cette prison de haute sécurité, c'est-à-dire le contraste va être assez saisissant. Dans la prison, il est sous haute surveillance 24 heures sur 24, il n'a pas le droit à un téléphone portable, et là, toute la journée, il peut utiliser le téléphone de sa femme, passer tous les coups de fil qu'il veut, se promener dans le TGV et être au milieu des gens.
Écoutez, après, franchement, je pense qu'il ne faut pas non plus faire croire que parce que cette personne, aujourd'hui, va pouvoir faire, si j'ai bien compris,
un entretien d'embauche dans la région lyonnaise,
qu'il va pouvoir faire ce qu'il veut et qu'il va y avoir personne qui le surveille, etc. Ça, c'est pas vrai.
Il n'aura pas d'escorte à proprement parler. Il n'y aura personne autour de lui officiellement.
D'accord, mais vous savez, y compris dans des prisons qui ne sont pas dites prisons haute sécurité, par exemple, les conversations téléphoniques, elles sont surveillées. Donc, ne faisons pas croire aux gens qu'il va pouvoir passer des consignes, je ne sais quoi.
Je le souhaite, qu'il est quand même surveillé.
Mais évidemment, je le souhaite. Et je crois que, sincèrement, c'est le cas. Maintenant, il y a une procédure judiciaire. Elle a été respectée à la lettre. Et encore une fois, je sais que l'idée qu'on veut faire paraître, c'est que finalement, il faudrait que les gens soient en prison tout le temps. Bah non, mais les gens, ils ont une peine avec une durée, j'entends dans le débat public. Et le principe de la prison, c'est quand même de travailler les conditions d'une réinsertion, de faire en sorte que les gens, quand ils sortent, ils ne recommencent pas. Et pour qu'ils ne recommencent pas, il faut travailler pour que cette réinsertion permette, par exemple, aux gens d'avoir un emploi.
La question de la cohérence, c'est-à-dire que,
c'est à Monsieur Darmanin qui
par exemple, je
ne
sais pas vous, mais la plupart des entretiens d'embauche maintenant peuvent aussi se faire en visio.
C'est vrai, on aurait peut-être pu imaginer un processus de cette nature. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas été imaginé comme tel. Maintenant, la question de la cohérence, pardon, mais c'est pas à moi qu'il faut poser cette question, parce que depuis le début, la force politique que je représente, on a dit que c'est cette idée que ces prisons haute sécurité seraient la solution, y compris au problème de la criminalité organisée. C'est une idée qu'on a battue en brèche. D'abord parce que dans les prisons actuelles, même quand elles sont pas haute sécurité, les gens ne font pas ce qu'ils veulent. Deuxièmement, parce que ces prisons de haute sécurité, ça a existé en France jusqu'aux années 80, et que dans les années 80, on a précisément considéré que ce n'était pas efficace, parce que ça ne se traduisait pas par un effet positif sur la question de la récidive et de la réitération des faits. Donc là, il y a effectivement une absence de cohérence, mais ça, c'est à Monsieur Darmanin qu'il faut poser la question.
Il dit d'ailleurs lui-même, il reconnaît qu'il y a un trou dans la raquette et qu'il faudra peut-être faire évoluer la loi sur cette partie-là.
Oui, mais Monsieur Darmanin, là, chez lui, la démagogie n'a pas de limite. C'est-à-dire que dès qu'il y a un sujet, il nous explique que la solution, c'est une proposition de loi. Moi, je pense qu'il devrait faire un peu moins de grandes phrases et de grandes paroles et un peu plus d'actes concrets, y compris dans la lutte contre la criminalité organisée, vu les drames qu'on a encore vus ces derniers jours.
Vous étiez d'ailleurs un samedi à la marche blanche, oui, à la mémoire du frère d'Amine Kessassi. Vous êtes réjoui du fait qu'il y ait beaucoup de monde. Vous estimez que les gens étaient au rendez-vous, que la France est au rendez-vous?
J'estime qu'il y avait la population marseillaise qui a été très ému et à juste titre, et je partage cette émotion, et je trouve que c'était important que tout le monde soit là. Maintenant, moi, je veux dire que, vous savez, en tant que député de Marseille, malheureusement, des marches après des drames liés à la criminalité organisée, j'en ai fait depuis 2 ans, 3 ans, sans doute une dizaine. Et donc, j'espère que ça sera pas juste un moment médiatique avec tout le monde qui se déplace.
Mais d'ailleurs, vous dites tout le monde qui se déplace. Alors oui, il y avait beaucoup de politiques, mais moi, je reste assez surprise. Il était où, Jul, par exemple? Il était où, Soprano? Ils étaient où?
Ben, je sais pas où ils étaient, peut-être qu'ils étaient là, qu'est-ce que vous en savez? Moi, vous savez,
vous pensez qu'il l'aurait pas dit? Vous les avez vus, vous, en tout cas, vous étiez?
Mais moi, je vais vous dire, j'étais là, et j'ai considéré d'ailleurs que la présence, elle nécessitait pas forcément d'en faire des tonnes sur les réseaux sociaux, parce qu'il me semble que c'était d'abord un
moment dommage. Il y a eu une forme de récupération, d'après vous?
Franchement, je pense qu'il y a quelques règles à fixer dans le débat politique. La première, c'est qu'on évite de faire des polémiques sur des drames. Donc, c'est pas moi qui vais en faire. Mais moi, j'ai considéré, par exemple, et j'étais avec mon collègue Sébastien Delogu, que notre présence, elle était au milieu des marchés. Marseillaises et des Marseillais. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on en a fait beaucoup des marches aussi dramatiques. Et bien souvent, les ministres viennent et ils font des annonces. Et puis quand ils rentrent à Paris, les annonces, elles partent avec eux. Donc moi, j'espère que ça va pas juste être un moment et que dans 10 jours, en quelque sorte, la vie va reprendre son cours avec les mêmes drames qui vont se poursuivre.
Mais je vous pose quand même la question. Joule, Redouane Bourguiraba, Soprano, des grandes personnalités très écoutées à Marseille. Moi, je les ai pas vues. Je crois pas que vous les ayez vues non plus.
La question,
je leur poserai évidemment la question, mais vous trouvez pas que ça aurait été leur rôle? Ça aurait été leur rôle d'être là.
Je vous ai dit, moi, j'ai pas envie de faire des polémiques avec qui que ce soit, et je pense que certains ont réagi, certains, par ailleurs, ont pu prendre la parole et ne pas forcément être présents à cette marche. Mais on a besoin, là où je vous rejoins peut-être dans votre question, on a besoin d'une mobilisation de la société dans toutes ses composantes contre ce drame de la criminalité organisée. On a besoin aussi d'un changement de doctrine politique, parce que ça fait depuis des mois et des mois que on dit qu'on va faire des choses et qu'on ne les fait pas. Donc où sont les effectifs supplémentaires dans la police judiciaire quand vous savez aujourd'hui que vous avez des départements dans lesquels chaque enquêteur de la police judiciaire a 200 à 300 dossiers sur son bureau? Où sont les greffiers? Où sont les éducateurs spécialisés dans nos quartiers populaires? Où sont les effectifs pour la protection de la jeunesse? Où sont les moyens mis dans la prévention pour faire en sorte que les gens ne tombent pas dans les trafics de drogue?
On est bien d'accord que votre candidat à Grenoble a dit ce week-end qu'il n'était pas là pour traquer les dealers, qui ne voulait pas traquer les dealers et qui ne voulait pas armer la police.
Mais c'est pas le rôle de la police municipale, madame, de traquer les dealers. C'est le rôle de la police nationale. C'est pas le rôle de la police municipale de remonter les réseaux de la criminalité organisée. C'est le rôle de la police judiciaire qui a été très largement démantelée ces dernières années par la réforme de la police judiciaire.
Mais quand on est candidat à Grenoble, ça fait peut-être partie quand même, non?
Mais vous savez, les compétences de la police municipale, c'est faire de la tranquillité publique. Sauf si vous êtes en train de m'expliquer que c'est la police municipale qui va chasser les réseaux de la criminalité organisée.
Pour vous, il n'est pas souhaitable que la police municipale de Grenoble soit armée.
Mais après, on parlera de la question de l'armement si vous voulez, mais là, on parlait des réseaux de la criminalité organisée. Ce sont des réseaux qui sont des réseaux nationaux, voire internationaux. Vous n'allez pas me faire croire, madame de Malherbe, que c'est la police municipale de Grenoble qui va lutter contre les réseaux de la criminalité organisée.
Non.
Ça, c'est la première chose.
Non, ça, on est bien d'accord. Mais en revanche, le maire a le pouvoir de décider que sa police municipale est armée ou non.
Vous avez raison, et moi, je défends avec la France Insoumise l'idée que les armes, elles doivent être réservées à la police nationale, et que la police municipale, elle doit avoir un travail, elle doit être redéployée sous forme de police de proximité, elle doit avoir un travail de tranquillité publique, un travail de médiation, et je le fais pas par, contrairement à ce que j'entends dans le débat public, par laxisme, je le fais par efficacité. Il faut que ce rôle-là de lutter contre les réseaux de la criminalité organisée, il soit fait avec des effectifs dont le travail est de remonter des réseaux. Et c'est là où je vous parle d'un changement de doctrine nécessaire. Arrêtons de faire croire qu'on va attaquer ces réseaux-là en chassant le bas du spectre. Il faut attaquer le haut du panier. Et pour attaquer le haut du panier, il faut mettre les moyens dans les effectifs qui attaquent le haut.
Vous avez vu sûrement cette vidéo qui tourne sur les réseaux. J'imagine qu'elle a dû être tournée au printemps, où on voit Rima Hassan et Sébastien Delogu qui répondent à un passant à Marseille qui fait un selfie avec eux et qui leur dit, il est à qui ce pays, il est à qui Marseille, on représente qui? Et Sébastien Delogu qui répond en riant à la DZ.
Mais franchement, vous savez ce que ça voulait dire, la DZ, dans cette expression? Ça veut pas être, ça n'a rien à voir avec la DZ mafia. Franchement, faites attention, s'il vous plaît, à pas faire des...
Non, parce qu'à chaque fois, on nous dit que c'est de l'humour. Moi, je veux bien, ça n'a rien à voir.
La DZ, ça veut dire autre chose. Enfin, on va pas rentrer dans le détail, mais...
Allez-y, la DZ, non, ça veut dire l'Algérie.
Non, attendez, oui, mais donc, ça n'a rien à voir avec la DZ mafia, ça n'a rien à voir avec les réseaux de la criminalité organisée. Donc, s'il vous plaît, franchement,
non, mais c'est une autre question, d'ailleurs. C'est une autre question.
Bah oui, mais vous me la posez en même temps, donc, je me permets de vous dire.
Ah non, c'est pas une autre question
que municipale. Vigilant, si vous voulez bien. Soyons un petit peu vigilants. Maintenant, moi, je veux bien recevoir des leçons sur la lutte contre la criminalité organisée, mais pour l'instant, ceux qui sont au pouvoir depuis des années et des années sont aussi comptables de la situation actuelle. Donc, pardonnez-moi.
Mais que ce soit la DZ mafia ou la DZ tout court, ça vous paraît normal quand on demande à quelqu'un
sur les réseaux sociaux et qui sont des vidéos privées ou personnelles? Franchement, c'est pas comme ça que je fais de la politique. Moi, je fais de la politique avec des propositions politiques. Et on est face à un fléau qui est celui de la criminalité.
Oui, mais ça me frappe quand même, Manuel Bompard, qu'à chaque fois qu'on pose ce genre de questions, j'ai vu qu'il y a deux jours, Éric Coquerel était interrogé sur les remarques homophobes de Sophia Chikirou sur les tafioles de merde, et il a répondu que c'était de l'humour. Vous avez beaucoup d'humour.
Non, mais c'est pas de l'humour et c'est pas drôle. Mais en l'occurrence, c'était un message privé, si j'ai bien compris. Je ne sais même pas si
ce message. Donc on a le droit de penser ça à titre privé, mais par contre, on ne doit pas le dire en public.
Non, je pense qu'elle ne pense pas à ça à titre privé. Mais franchement, Apolline de Malherbe, vous pouvez me faire la série, si vous voulez, des messages volés, des messages privés, si c'est votre manière de faire de la politique. Mais pardon.
Non, non.
Moi, je considère que notre pays, aujourd'hui, il est confronté à des difficultés majeures. Et je me permets d'imaginer une vision de la politique dans laquelle on peut essayer d'y apporter des réponses. On n'est pas tous d'accord après.
J'adorerais.
Moi, c'est ce que je fais.
J'adorerais.
C'est ce que j'essaye de faire.
On va y passer au budget, mais j'en profite. Vous savez quoi?
Que je trouve assez ridicule.
Je préférerais poser cette question directement à Sofia Chikirou. Mais il se trouve que vous aurez peut-être remarqué qu'elle n'a répondu à aucune interview en direct des années.
C'est clair que si votre volonté c'est de l'inviter pour lui poser des questions sur des messages privés.
Et j'aurais plein de questions à lui poser. Et je pense que tous mes confrères aussi, elle n'a répondu à aucune question.
Je pense que ce serait peut-être mieux de lui poser des questions sur ce qu'elle aspire à faire pour Paris.
Aucune interview.
Et à ce que nous on aspire à faire aux élections municipales.
Mais avant,
ça vous intéresse.
Candidate au municipal, c'était pareil. Aucune interview.
Elle fait ce qu'elle veut, non?
C'est ça votre vision de la démocratie et de l'échange.
Je suis en face de vous, Apolline de Malherbe.
Oui, mais Sofia Chikirou, elle est quand même candidate pour la mairie de Paris.
J'ai l'impression que vous êtes déçu que ce soit moi et pas Sofia Chikirou.
Je suis ravie de vous recevoir, Manuel Bompard, comme à chaque fois.
Mais
n'hésitez pas à le lui dire, en tout cas. Je trouverais normal, effectivement, qu'il y ait des échanges démocratiques.
Apolline de Malherbe, les échanges démocratiques, ils se font à travers des élections, ils se font à travers des campagnes, ils se font à travers des contacts avec les citoyennes et les citoyens. Et ensuite, certains répondent à des interviews, d'autres préfère avoir une autre forme de débat avec directement les citoyennes et les citoyens. Vous inquiétez pas, Sofia Chikirou, elle aura des réunions publiques, elle aura des meetings, elle fait des conférences de presse, elle en a d'ailleurs fait une pour présenter sa campagne et vos journalistes de BFM y étaient et ont pu lui poser toutes les questions qu'ils voulaient lui poser.
Mais qu'elle n'hésite pas en tout cas, des questions en direct sur des plateaux
télévision. Vous avez très envie de la recevoir et je lui passerai donc le message que vous avez très envie de la recevoir.
N'hésitez
pas. Maintenant, je pense que si vous la recevez, j'espère que vous la recevrez pour parler plutôt de son programme plutôt que des polémiques qui sont quand même assez ridicules.
Je pense qu'elle ne me demandera pas la liste des questions avant.
Mais est-ce que moi je vous demande la liste des questions avant?
Et si vous l'aviez fait, vous saviez bien que j'aurais jamais accepté.
Je réponds à vos questions, mais j'ai le droit de considérer que quand vous invitez un responsable politique ou un parlementaire, c'est plutôt pour discuter avec lui des propositions qu'il a à faire pour le pays que des polémiques.
Le budget,
c'est ridicule.
Personne n'en veut.
Ça, c'est
clair. Il a été rejeté à la quasi-unanimité. Il y a un député qui a voté pour le volet recettes. Maintenant, on fait quoi?
On base budget définitivement. 404 voix contre le budget, une voix pour. C'est la preuve que personne ne veut effectivement de ce budget. Et pour cause, c'est un budget qui est un budget de maltraitance sociale absolue. Ce serait un désastre économique. Ça va plonger le pays dans une récession économique dont il aura beaucoup de mal à se remettre. C'est un budget d'irresponsabilité écologique. Aujourd'hui, malheureusement, la COP a donné des résultats désastreux, mais tout le monde sait que le grand défi du siècle, c'est la transition écologique, et on ne fait rien sur ce sujet. Ce sujet n'existe même pas.
Est-ce qu'il vaut mieux pas de budget? Est-ce qu'il vaut mieux pas de budget?
Qu'un mauvais budget, oui.
Qu'un mauvais budget.
Il y aura pas de budget, puisque si à la fin on bat ce budget, il y aura un minima ce qu'on appelle une loi spéciale, et cette loi spéciale, elle permettra, pour l'année prochaine, d'avoir les mêmes lignes budgétaires que le budget de l'année dernière, jusqu'à ce qu'on puisse discuter d'un nouveau budget.
Sébastien Lecornu avait promis de ne pas utiliser le 49.3. Est-ce qu'il faut qu'il en reste là? Certains disent, oui, mais au moins ça permettrait qu'il y ait un budget. Non, pas question.
Pas question.
Vous redoutez ça, vous vous demandez si ça revient là?
Je sens bien, je vois bien la petite musique revenir de ceux qui, y compris, j'ai vu des députés socialistes qui, après avoir considéré que c'était une grande victoire d'avoir obtenu le renoncement au 49-3, maintenant demandent à ce que le 49-3 revienne. Donc je dis un petit peu de cohérence politique. Mais attendez, moi j'esquive pas la question. Mon objectif, c'est de battre le budget. Mon objectif, c'est de renverser le gouvernement parce qu'il n'y aura pas d'avenir différent pour notre pays avec la Macronie au pouvoir. Et d'ailleurs, ce qu'on observe avec ce résultat du vote sur le budget, c'est que la Macronie est incapable aujourd'hui d'avoir un budget qui a une cohérence politique. On a besoin d'avoir un budget.
Vous allez donc déposer à nouveau une motion de censure?
Je pense qu'il y aura une motion de censure, oui, mais après je sais pas encore quels sont les outils que va utiliser le gouvernement. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si le gouvernement essaye de passer en force son budget, que ce soit par 49-3, que ce soit par ordonnance, alors évidemment nous déposerons une motion de censure puisque c'est le seul outil dont on disposera alors pour empêcher ce budget de voir le jour. Et c'est pour protéger les gens, parce que dans ce budget, c'est un effort qui repose essentiellement d'ailleurs sur les catégories les plus pauvres. Quand vous voyez que dans ce budget, on en a déjà parlé, il y a la division par deux de la prime de Noël pour les allocataires du RSA, des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté et à qui on va dire c'est à vous de faire des efforts, mais que dans le même temps on refuse une taxe Zuckman pour que les plus riches payent 2% d'impôts, c'est pas 40% d'impôts.
De toute façon, tout ça est retombé aux oubliettes, hein, puisque ça n'a pas été voté.
C'est justement le problème, parce que si vous mettez pas davantage à contribution les plus riches, les multinationales, les grandes entreprises, à la fin, si vous voulez équilibrer votre budget, vous faites payer les gens. Et moi, je suis pas d'accord pour faire payer les gens.
Est-ce que vous préféreriez que Emmanuel Macron se résolve à dissoudre?
Ben moi, ce que je préférais, c'est qu'Emmanuel Macron se résolve à partir. Parce que je pense que c'est lui qui est responsable de cette situation et que évidemment tout le monde l'a vu, la dissolution, on l'a déjà expérimenté l'année dernière, elle n'a pas produit une situation qui permet au pays de choisir clairement le cap qu'il a envie de prendre. Et donc je pense que pour ça, on a besoin du départ du président de la République et d'une élection présidentielle anticipée. On gagnerait du temps, parce que sinon ce qui va se passer, vous le savez comme moi, c'est que pendant 16 mois jusqu'à la prochaine élection présidentielle, en fait, on va rien faire.
Tout va être sur pause.
Et on va perdre du temps. Et on va perdre du temps alors qu'on n'a pas de temps à perdre. Parce que quand vous regardez l'évolution du monde depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir en 2017, on a
déjà perdu. J'allais y venir à l'évolution du monde. François Hollande parle d'un danger majeur, d'un risque de guerre. Le chef d'état-major des armées a dit qu'il fallait qu'en France, on aille vers l'idée d'accepter de perdre ses enfants. Et Emmanuel Macron s'apprête à annoncer le retour d'un service militaire volontaire, mais le plus large possible. Comment vous réagissez à tout ça ?
D'abord, les propos du chef d'état-major des armées, je pense qu'ils sont très malvenus. C'est pas à lui de faire des déclarations, et en plus, ces déclarations sont très maladroites. Moi, pardon, mais je considère que notre objectif aujourd'hui, c'est pas de se préparer à perdre nos enfants. Je pense que notre objectif, ça doit être plutôt d'œuvrer et de créer des conditions de la paix, et d'une paix qui soit durable. Et je ne crois pas, et je n'ai jamais cru à l'adage que pour préparer la paix, il fallait préparer la guerre.
Mais
pour
c'est
préparer
la paix, il faut préparer la paix. Ce qu'il dit, évidemment, c'est que si nos adversaires sentent que nous ne sommes pas prêts à effectivement avoir cette grandeur d'âme, comme il dit, alors ils pourraient être tentés, en effet, de nous envahir.
Et vous avez l'impression que les propos du chef d'état-major des armées aident dans le pays à une prise de conscience, à un sérieux? Moi, j'ai l'impression plutôt que ça a contribué à semer une forme de panique.
C'est l'inverse.
Donc oui, je pense que c'est tout à fait contre-productif, les propos qu'il a tenus. Moi, je souhaiterais plutôt que la France soit à l'avant-garde, parce qu'elle n'est pas, malheureusement, des négociations de paix qui s'ouvrent entre l'Ukraine et la Russie, ou qui mettent du temps à s'ouvrir, soyons
réalistes. Vous les trouvez satisfaisantes en ce moment,
Non, tout le monde voit bien que c'est des négociations qui se préparent pour l'instant entre Vladimir Poutine et Donald Trump, sans les Ukrainiens autour de la table des négociations, et dans lequel la France, l'Union européenne, qui a des intérêts à défendre dans cette histoire. Je veux dire, c'est la question de sa propre sécurité, ce sont des intérêts qu'on a à défendre dans cette histoire. On n'est même pas à la table des négociations pour pouvoir les faire valoir. Ces garanties de sécurité, elles nous impliquent, elles nous concernent. Le fait que les Ukrainiens soient à la table des négociations, ça nous concerne, ça nous intéresse.
Et c'est à cela qu'on devrait mobiliser notre énergie. Une dernière question, Emmanuel Bompard. Vous l'avez vu, l'Université Lyon 2, un professeur d'histoire, qui a dressé une liste, je cite, de génocidaires à boycotter quoi qu'il arrive. La direction de l'établissement s'est dit consternée, condamne les propos de l'enseignant. Est-ce que vous les condamnez également ?
Mais c'est pas des propos, c'est une, si j'ai bien compris, une publication sur les réseaux sociaux dans lequel il a indiqué une série de personnes dont il considère que les positions sont des positions de soutien au gouvernement. Et alors, on n'a pas le droit de dire qu'il y a des gens dont on considère que les positions qu'ils défendent dans les médias.
Donc pour vous, il n'y a pas de problème avec
ça. On n'a pas envie de les entendre ou pas envie de les écouter. Moi, j'aurais pas fait de liste, personnellement, mais je suis quand même un peu stupéfait. On a quand même le droit de dire que quand des gens défendent un gouvernement, qui est le gouvernement de M. Netanyahou, qui est accusé, je veux le dire quand même, de génocide, après avoir dit pendant des mois et des mois.
Il n'est pas accusé de génocide. Enfin bon, on va pas rouvrir encore
ce débat.
Il est accusé par certains de génocide, mais il n'y a pas une unanimité à considérer que c'est génocide. Mais on peut rouvrir cette question. En tout cas, quand on est professeur d'histoire, aujourd'hui, pour vous, on peut faire cette liste.
Mais madame.
Il n'y a pas de problème.
Vous pouvez nuancer les choses si vous voulez, mais il y a bien un arrêté de la Cour internationale de justice qui date
il
y a un an et demi qui parle d'un risque de génocide.
Voilà, c'est bien
et
ce
il y a
que
bien des mandats, madame, il y a bien des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale qui ont été. Non mais attendez.
Non mais vous le savez très bien.
Balayez ça d'un revers de la main si vous voulez. Vous savez ce que c'est des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité.
Parfaitement. Je dis juste qu'il n'est pas.
Et madame, depuis
risque de génocide, ne pas dire.
Depuis des mois et des mois sur tous les médias en France. Excusez-moi de vous le dire quand même.
Est-ce que ça veut dire que ces gens-là sont des génocidaires?
Attendez.
Est-ce que ça veut dire que pour vous?
Je ne dirais pas ça, mais je dirais par contre qu'ils ont pris des positions politiques de soutien à un gouvernement qui est un gouvernement qui commet un génocide. Donc je ne suis pas d'accord avec le fait que ces gens-là. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça, puisque moi je ne considère pas que les gens qui soutiennent un gouvernement qui commet des crimes contre l'humanité le sont eux-mêmes responsables de ces crimes-là. Mais par contre, je pense qu'on a le droit de considérer que leurs positions sont des positions qui sont des positions extrêmement problématiques. D'ailleurs, je vais vous faire remarquer que pendant des mois et des mois, on nous a dit, à partir du moment où il y aura la libération des otages, la guerre s'arrêtera. Et ce que j'observe, c'est que malheureusement, trop tardivement, il y a eu la libération des otages et qu'on a encore des Palestiniens innocents qui meurent aujourd'hui. Et je trouve qu'on devrait davantage parler de ça plutôt que des tweets des uns et des autres sur les réseaux sociaux.
Et vous l'avez dit ce matin. En tout cas, merci Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise. Il est 8h48 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les matins, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Ce matin, mon invité est Emmanuel Bompard. Jean-Luc Mélenchon, vous vouliez réagir?
Je vous ai entendu, Mme Malherbe, avec Emmanuel Bompard. C'est quoi cette façon-là de poser des questions?
C'est-à-dire, en fait, je suis journaliste, donc je pose des questions, oui.
Ah, c'est ça, journaliste. Ah. Vous avez donc le sésame pour procéder à des interrogatoires. Hein. Où était Redouane Bouguerraba, vous l'avez dit à mon Bompard. Il n'a pas voulu le dire, parce que Bompard, c'est pas une balance. Hein. Puis ça peut pas être lui, hein, Bouguerraba. Un Bompard, il rit jamais, on le sait. Alors, je connaissais la police politique, donc il y a désormais chez vous, Madame de Malherbe, la police de la presse. Heureusement que Manuel est imprenable, hein, au jeu du ni oui ni oui.
Enfin, je crois que ça s'appelle le ni oui ni non.
Non, 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 c'est le ni oui ni oui. Ah. C'est moi, je le sais, c'est moi qui l'ai formé. Hein. Il est imprenable. Mais allez-y, allez-y, donnez-vous encore quoi, hein, essayez. Si ça vous amuse de l'interroger.
On la retente. Rebonjour Manuel Bompard.
Non, écoutez, Madame de Malherbe, on ne peut pas dire bonjour comme ça de façon inconsidérée, vous le savez très bien. N'oubliez pas qu'en disant bonjour, vous excluez tous les travailleurs de nuit qui ne portent pas forcément un bonjour. Donc, à la France Insoumise, nous n'oublions pas ce type de gens.
D'accord. Faisons plus simple alors. Vous êtes un homme, Manuel Bompard?
Écoutez, non, mais Madame de Malherbe, Madame, vous serez d'accord avec moi que l'époque a changé, Madame. Vous le savez aussi bien que moi, aujourd'hui, on ne classe plus les gens par genre, homme, femme ou autre. Hein. Tout ça, c'est stigmatisant, c'est totalement dépassé de nos jours, Madame.
On peut dire qu'on est en automne.
Non. Madame, en automne, je veux bien essayer de jouer à votre jeu sympathique, mais faut arrêter, madame, de vouloir tout mettre dans des cases. C'est pas parce que les feuilles tombent en automne qu'on est forcément en automne, excusez-moi. Quand il y a un ouragan chez nos concitoyens d'outre-mer et que c'est en avril, pardonnez-moi, mais les feuilles tombent aussi, on n'est pas pour autant en automne, madame, pardon, excusez-moi.
Non,
vous pouvez balayer ça avec un revers de la main, vous faites ce que vous voulez, mais moi je ne suis pas, moi.
Vous êtes imprenable, c'est sûr. Tout de suite, l'actualité avec Thibaut Texer.
Oui, bonjour à Pauline, ici Thibaut Texer, le seul journal dont la chaleur de la voix peut dégivrer votre pare-brise. Alors que le gouvernement va envoyer à tous les Français un manuel de survie en cas de conflit armé, le Rassemblement National, lui, de son côté, envisage d'envoyer à tous ses adhérents un guide intitulé « Comment bien vivre avec nos amis russes ?»
Alors justement, d'après le général Mandon, la France devrait être prête, je cite, à accepter de perdre ses enfants. Emmanuel Macron est avec nous, bonjour. Vous avez soutenu le général Mandon?
Oui, écoutez, bonjour. Écoutez, le général Mandon a eu raison. De toute façon, les enfants d'aujourd'hui, nos enfants français, on le sait, sont déjà perdus.
Oh
hein, on le sait. Ils deviennent complètement cons à cause des écrans. Hein. Ils ont du mal à se concentrer plus de 20 secondes. Ils savent à peine lire, écrire, compter. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse à part les envoyer à l'armée?
Non, mais on n'est pas préparé quand même à cet effort de guerre.
Non, mais attendez, Madame Valère, mais qu'est-ce que c'est que ce pays?
Alors,
la retraite, bosser plus longtemps, vous ne voulez pas. Commencer l'école avant 9h, on ne veut pas. Mourir pour sauver le pays, on ne veut pas. Vous savez quoi? On va sortir une nouvelle version du guide de survie.
Ah oui. Hein,
et dedans, il n'y aura que des conseils réservés aux gros lâches. Hein. On expliquera comment battre en retraite face à l'ennemi, bien sûr, sans avoir trop à courir. Hein, et aussi comment confectionner facilement un drapeau blanc avec ses draps. Hein. Et puis, bien sûr, comment dire russe en russe la phrase « je me rends, je suis une lavette ». Voilà. Vous voyez, je sais m'adapter.
« Je me rends, je suis une lavette ». Oui, on s'adapte. Merci, Monsieur Macron. On a beaucoup débattu de la phrase du général Mandon, donc sur la perte de nos enfants. Vincent Moscato tenait absolument à nous apporter son éclairage sur le sujet.
RMC, le super Moscato Show.
Mando, le général Mando. Mando, chef d'état-major des armées, le gars, tu vois, c'est juste au-dessus du caporal, tu vois. Le boss, il est invité au congrès maire de France, il arrive, tu vois, le gars propre sur lui, tu vois, avec le bon costume, là, le comment t'appelles ça, le l'uniforme, là, avec.
Voilà.
C'est tout dans sa collection multicolore de pins, là, les chevaliers de Légion d'honneur, de chevaliers de l'ordre de Malte, chevaliers Zodiac, chevaliers Laspalès, ça. 5 étoiles, mec, sur booking.com, 5 étoiles.
Excusez-moi, Vincent, je crois que
c'est pas tout à fait les mêmes étoiles.
Non mais je sais pas, j'ai Apolline. J'ai pas fait l'armée moi. Ils m'ont réformé parce qu'il y avait pas d'uniforme à ma taille. J'étais trop gaulé gros. Et le seul truc qui m'allait c'était un parachute.
Revenons au général Mandon si vous le voulez bien Vincent.
Bon alors Mandon, le gosse, donc il arrive au micro, tu vois, tout calme, le mec tranquille, tu vois, zen, tu vois, il dit 3-4 ans, dans 3-4 ans, il y a guerre avec les Ruskov et on va perdre nos enfants. Oh putain, qu'est-ce qu'il avait pas dit le gosse? Le gosse, tout le monde lui est tombé dessus, tout propre qu'il était, tu vois, il a pris des sauts de merde dans la gueule, toutes les rédacs en surchauffe, les jeunes journalistes sur les plateaux, que des Miss France, tu vois, ils tombent les nus. Les mecs, ils découvraient qu'à la guerre, tu peux mourir, quoi. Que c'est pas un jeu vidéo, que tu joues pas avec les Playmobil. Je vais te dire mon analyse, Apolline. Marshall, je vais te dire quoi. La guerre, c'est comme le rugby, ça picote un peu. Si tu rentres impeccable, sans rien de cassé, c'est que t'as vraiment pas été sur le terrain.
Merci Nicolas Cantou, à demain.